Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Intégral Sport sur RMC, le temple du sport en live à la radio. Votre rendez-vous chaque week-end. On est ensemble en direct jusqu'à 15h. Autour essentiellement de la rencontre Lorient-Lille. C'est la suite de la 9e journée de Ligue 1. Xavier Grimaud nous attend au moustoir. On y va dans un instant. Le temps pour moi d'accueillir notre consultant. Il va vous accompagner durant ces 2 heures. Manu Amoros, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Bonjour Manu, excuse-moi, c'est Pierre-Yves Leroux qu'on va retrouver dans un instant. J'avais une petite erreur sur la fiche sur laquelle je travaille toute la semaine. Mais écoute, on va accueillir Pierre-Yves dans un instant. Le temps pour moi, Manu, de rappeler que tu n'es pas n'importe qui tout de même, hein. Vainqueur de la Ligue des Champions, 93, 82 sélection d'équipe de France, deux fois demi-finaliste de la Coupe du Monde avec les Bleus, quatrième du Ballon d'Or 86 et désormais consultant de la Dream Team. On file tout de suite au moustoir, la suite de la 9e journée de Ligue 1. Pierre-Yves Leroux, toutes mes excuses. Salut.
T'inquiète, salut Simon. Xavier, bonjour, moi, Pierre-Yves. C'est pareil, on couvre tout l'Ouest, donc forcément, tu sais, on a tellement d'équipes, hein, les confusions sont faciles.
Tu sais, c'est pas mon genre de dénoncer, donc je ne donnerai pas le nom de mon
producteur. Et puis moi, je connais le responsable aussi.
Qui m'avait communiqué un conducteur avec le nom de Xavier Grimaud à côté du match.
Ça coûtera un resto, c'est tout.
C'est parti, ici, depuis une minute, 0-0 dans une rencontre à cette heure-là, 13h, voilà, qui nous donne faim, qui nous met en appétit parce qu'on a hâte de voir ce que ça peut donner. Tellement cette équipe lorientaise fait plaisir à voir jouer depuis le début de la saison. Et puis en face, il y a un collectif qui, même s'il est derrière au classement, quand même a du répondant. Et on sent que ça va être ouvert puisque du côté lillois, la stratégie a un petit peu changé depuis quelques mois. Donc voilà, on va jouer très très haut à l'image de ce qui est en train de se passer maintenant. Et pour avoir suivi l'entraînement de vendredi du côté du Moustoir avec Régis Lebris, je sais que tout est en place aussi pour essayer de contrer cette équipe. 0-0, petite surprise juste dans la compo lilloise peut-être.
Je vais te poser la question, oui.
Ouais, exactement, parce que on s'aperçoit que c'est Jonas Martin qui est titulaire pour la première fois de la saison. Ça fait 5 mois qu'il n'a pas été titulaire. La dernière fois, c'était lors d'un Rennes-Nantes quand il était en Bretagne. Et bien voilà, il a moins de 90 minutes dans les jambes. C'est aussi là aussi, à mon avis, un choix stratégique par rapport à cette équipe lorientaise, d'avoir un garçon capable de poser un peu le jeu aux côtés de Benjamin André.
La qualité technique de Jonas Martin. Manu Amoros, deux questions en une. Qu'est-ce que ton flair te dit là, autour de cette rencontre entre, on le rappelle, les surprenants lorientais, un troisième de Ligue 1, début de saison exceptionnel, face à ces Lillois? Et est-ce que les compos des deux équipes t'amènent à quelques réflexions alors que le match vient de débuter?
Non, c'est un peu des équipes type. Il y a quelques ajustements des deux équipes, mais moi je suis très impressionné par l'équipe de Lorient qui joue d'abord très très bien au ballon, très collectivement, et qui marque beaucoup de buts. Voilà, c'est une équipe lorientaise qui doit démontrer encore pas mal de valeur parce que c'est une équipe qui joue le maintien, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et avec ce départ-là, si elle continue comme ça, si elle a le bonheur de gagner aujourd'hui, elle peut espérer éventuellement de jouer peut-être pas les premiers rôles, parce qu'il y a des équipes comme Monaco, Rennes, Lens qui sont derrière et qui suivent de très près, mais peut espérer, pourquoi pas, participer à la saison, en fin de saison, à une Coupe d'Europe.
Lorient-Lille, c'est la suite de la 9e journée de Ligue 1. Vous n'en manquez rien, vous avez l'habitude sur RMC. On est dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros et Pierre-Yves Leroux qui est au moustoir pour nous commenter cette affiche. Pierre-Yves, cette équipe de Lorient, évidemment, tout le monde ne cesse de vanter la qualité de son jeu, l'attractivité de son jeu offensif. Manu le soulevait à l'instant. Avec, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, deux joueurs quand même qui...
Oh, attention, déjà la première frappe, elle est signée Julien Ponceau et c'est stoppé avec difficulté par Lucas Chevalier. Voilà, à l'image de ce qu'on décrivait, ça va vite, on n'hésite pas, il n'y a pas... Voilà, c'est une équipe qui est en pleine confiance à l'image de Ponceau. Justement, je m'appuie sur ce joueur pour répondre un peu à ta question sur pourquoi ça fonctionne finalement. Ponceau, il connaît depuis 6 ans Régis Lebris, il l'a connu à la formation comme directeur du centre, comme coach de la réserve. Donc voilà, il y a une transmission des idées qui sont très poussées, très réfléchies de la part de Régis Lebris à un certain nombre de garçons qu'il connaît depuis longtemps et ça se transmet sur le terrain. C'était amusant vendredi de suivre l'entraînement et de voir Régis Lebris au milieu de ses joueurs arrêter sans arrêt les entraînements. les exercices, et demander aux joueurs, voilà, qu'est-ce qu'on fait là, quelle solution prendre, voilà, c'est une co-construction en fait du schéma tactique. Il impose pas tout seul ses idées, évidemment il a les lignes directrices, mais il s'appuie aussi sur l'avis des joueurs et ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est très intéressant.
Mais Pierre-Yves, c'est de toute manière un dialogue en permanence avec les joueurs que l'entraîneur doit avoir,
oui,
et même aux entraînements, parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un schéma tactique qui est défini au départ avec l'entraîneur, mais il peut être modifié ou amélioré au fur et à mesure des entraînements avec les discussions des uns et des autres.
On parce est d'accord, que... Manu, mais est-ce que c'est toujours ça?
Non, c'est pas toujours ça. Mais dans les clubs comme ça où on privilégie la formation et avec Lebri qui avait la formation, je dirais la réserve l'année dernière, connaît cette possibilité de le faire. Et avec des joueurs qu'il a à Lorient, il peut le faire. Il peut le faire parce que il y a pas des grandes vedettes. C'est sûr qu'à Paris, c'est beaucoup plus compliqué et difficile à faire. Mais je pense qu'à Lorient, Auxerre, Trois, il y a des possibilités de discuter avec les joueurs à l'entraînement et de choisir ensemble le meilleur schéma tactique pour jouer contre Lille aujourd'hui.
Tu veux dire, Manu, que les méthodes, enfin que la structure, la dimension, hein, sans faire injure au club lorienté, oui, la dimension du FC Lorient permet au style d'un Régis Le Bris de s'épanouir plus facilement que dans un plus grand club, par exemple.
Mais bien sûr, malheureusement, plus un entraîneur grandit et prend une équipe beaucoup plus importante, plus tu vas avoir des joueurs avec du caractère et peut-être beaucoup plus difficile à gérer. Là, c'est une équipe où entre l'entraîneur et les joueurs, il y a une osmose qui se crée et il y a une possibilité de faire beaucoup de choses et le dialogue fait partie intégrante de du joueur et de l'entraîneur.
Pierre-Yves, toi qui es notre spécialiste du football du Grand Ouest sur RMC, ça fait plusieurs saisons que tu suis entre autres l'actualité au quotidien du FC Lorient.
Oui, une vingtaine.
Quelques temps. Comment tu définirais en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis le début de la saison, le style Le Bris, qu'est-ce qu'il a? C'est un sorcier?
Non, pas du tout, mais il s'appuie surtout sur la continuité de l'histoire d'un club. Et très précisément, ce que vous voyez là actuellement, c'est une organisation qui est marqué dans l'histoire du club, c'est celle de Christian Gourcuff, c'est le 4-4-2. Et voilà, et lui, il a travaillé avec Christian Gourcuff, il a beaucoup échangé avec lui, avec d'autres, hein, il y a d'autres inspirations, mais ce qu'il veut, lui, c'est du jeu, c'est qu'il y ait du mouvement, c'est qu'il y ait des solutions qui soient données, c'est qu'on ressorte proprement. Enfin voilà, il y a beaucoup, attention aux Lillois qui sont à l'attaque, là, à l'entrée de la surface de réparation, avec une possibilité de frappe, mais elle est trop croisée, on en reste à 0-0 sur le terrain après 8 minutes. Et quand je décris tout à l'heure les séances d'entraînement, moi ça m'a rappelé ce que j'ai connu il y a plus longtemps avec Reynald Denouex du côté de Nantes, avec Kosciuszko il y a encore plus longtemps. Mais voilà, on retrouve un discours qui est effectivement très proche de la formation et c'est ce qu'il voulait. Il est dans la continuité de ce qu'il a connu, comme tu le disais, Manu, c'est plus facile ici quand on a été avant à la formation. Et il a choisi ses joueurs aussi en fonction de ça, des garçons qui sont encore dans leur développement et qui vont pouvoir poursuivre le schéma. C'est l'histoire d'un club, en fait, il le disait lui-même vendredi, il est dans la continuité, l'histoire d'un club, voilà. Et Régis Le Bris a beaucoup travaillé depuis, il a arrêté sa carrière à 27 ans, il a arrêté jeune, hein, sa carrière de joueur, pour tout de suite se mettre à la formation. Et c'était du côté de Wascal, avec les U14 à l'époque, les fédéraux. Voilà, après il est monté en grade avec Lorient, avec Rennes avant ça. Et maintenant il se retrouve à la tête de l'équipe 1. C'est un chemin qui est intéressant pour pouvoir mettre ses idées en place et bien les avoir construites surtout. Et là on a le sentiment que effectivement ils joueront peut-être pas la Champions League, mais ça peut quand même un petit peu durer cet effet. À l'image de Diarra qui déborde le côté droit, la frappe, le but, la voilà, l'ouverture du score pour Terem Moffi, c'est lui, me semble-t-il, qui était juste là pour la pousser. Tout ce qu'on décrit en ce moment dans les mots, moi je le vois avec mes yeux, ça défile, ça déroule. Et pour les Lillois, comme je le craignais, ça va un petit peu vite. Ça va un petit peu vite et ça fait 1-0 alors qu'on joue depuis moins de 10 minutes.
Bon, Manu...
rien, parce que le ballon... Ben ouais, confirmation de ce qu'on dit, ballon sur le côté, une accélération de Diarra.
Je sais pas si c'est le défenseur finalement qui l'a mis contre son camp.
Ouais, je crois que c'est le défenseur qui met son contre son camp.
Ouais, avec Lucas Chevalier.
Ouais, déjà Chevalier fait une erreur demain. Ouais, mais il y a Chevalier qui fait quand même une erreur demain et
c'est
malheureusement.
Il y a Diakité qui la pousse.
Qui la pousse. Mais bon, c'est quand même une action bien construite, une action qui a été travaillée parce que le Brie, je pense qu'il fait ça aux entraînements et partir sur les côtés, avoir du mouvement en permanence et ça fait malheureusement mal à l'équipe adverse parce que on a du mal. Les défenseurs à prendre quelqu'un s'il y en a deux ou trois qui arrivent.
Oui, et puis tu sais, Manu, tu connais bien ça, c'est que quand un groupe est en confiance, quand ça déroule comme ça.
C'est ça.
C'est tellement plus facile.
Mais bien sûr. Mais après, il faut voir, admettons que Lorient perd deux ou trois matchs d'affilée, il faut voir la réaction et l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport au dialogue qu'il aura avec les joueurs, s'il y a, bien sûr, deux ou trois couacs.
Ouais. Alors je lui demandais justement quel était le plus grand danger pour son groupe là maintenant dans les semaines qui viennent. Il disait le danger c'est quand vous enchaînez les bons résultats, c'est d'avoir un petit peu alors pas de la suffisance mais un manque de vigilance. Mais il dit je pense pour bien connaître mon groupe, je n'ai pas le sentiment qu'on craigne ça et puis en plus j'ai un staff et c'est vrai qu'il est très très bien accompagné aussi qui surveille tout ça pour éviter qu'il y ait ce manque de vigilance. Bon. Voilà, encore une fois, hein, ils ne seront pas champions, sans doute pas, mais c'est intéressant.
Et puis Pierre-Yves, si je peux me permettre, Régis Lebris, il sait quand même d'où revient une partie du groupe dont il a pris la charge à l'intersaison. 16e l'an dernier, Lorient s'est fait peur. 3e avant cette rencontre, ils viennent d'ouvrir le score face à Lille. Il y a quand même quelques noisettes au grenier déjà pour l'hiver, pour les temps effectivement certainement plus durs qui s'annonceront dans quelques semaines.
Oui, c'est certain. Et voilà, c'est que du bonus. Après, Régis Lebris aussi dit très clairement, voilà, le classement aujourd'hui c'est tout anecdotique et puis surtout lui, ce qui l'intéresse c'est avant tout ce qui se passe sur le terrain plus que le résultat, même si évidemment c'est toujours mieux de prendre 3 points à la fin.
Bien sûr, et puis avoir les points nécessaires pour se maintenir.
Oui.
Ça sera malheureusement l'équation pour Lorient. Tous les points pris aujourd'hui, c'est du bonus pour eux.
Ils sont à 22, ils en avaient 36 à la fin de la saison. Je compte 22 là avec pour l'instant la victoire.
Avec la victoire, oui.
Le compte en live évidemment de Pierre-Yves Leroux. Le temps, le score, Lorient-Lille.
12 minutes exactement, 1-0 pour les Lorientais avec ce but contre son camp de Diakité à la 10e minute.
La 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit dans l'Intégral Sport. Vous n'en manquerez pas une miette sur RMC. Manu Amoros qui nous accompagne jusqu'à 15h. On revient dans un instant. Micro ouvert pour Pierre-Yves Leroux, évidemment au stade du Moustoir. Mais on se dépêche, nous, de revenir au galop même.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
13h16, c'est l'Intégral Sport qui est de retour. Vous êtes bien sur RMC, on est ensemble en direct jusqu'à 15h en compagnie de notre consultant Manu Amoros autour de la rencontre Lille-Lorient, la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit. À 14h, on prendra la direction de Singapour, retrouver Jean-Luc Roy, Denis Chevrier qui nous commenteront évidemment la 17e manche du championnat du monde de Formule 1. Max Verstappen peut-être sacré champion du monde pour la deuxième fois d'affilée dès aujourd'hui. Et puis dans un instant, on ira à l'hippodrome de Longchamp pour parler de la plus grande course hippique de galop au monde. C'est la promesse de RMC, vous le savez, être là partout où le sport crée l'événement. Mais avant ça, direction le Moustoir avec Pierre-Yves Leroux, FC Lorient, Lille, où en est-on ?
Toujours 1-0 après 17 minutes de jeu. Le but de Diakité contre son camp sur une action lorientaise. La défense lilloise un petit peu débordée. Les joueurs lillois qui réagissent quand même. Et tout à l'heure, il y a quelques instants, Mvogo a été obligé de s'employer sur un centre pour repousser le ballon. Il y aura un coup franc à venir dans quelques instants pour les Lillois. Alors que la pluie s'invite dans cette rencontre devant un stade du Moustoir bien rempli, on doit être pas très loin des 17 000 personnes. Le record, c'était en 2012, un mois de janvier. Mais c'était pas Lorient, c'était Locminé qui jouait en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Si vous vous souvenez de ce match.
J'ai envie de te dire que si on remplit pas le Moustoir avec le début de saison que nous font les Lorientais,
ça serait dommage.
Cette saison, ça n'arrivera jamais. Un tout petit mot, Manu, là sur le premier gros quart d'heure là de cette rencontre et l'avantage pris par les Lorientais.
Oui, on voit les Lillois réagir un petit peu, un Vogo qui a fait une belle sortie avec cette main en extension qui a sorti ce ballon là, mais voilà, bonne petite réaction des Lillois, mais en contre j'ai l'impression que les Lorientais peuvent aller très 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 vite.
Et oui, ils ont désormais l'avantage de pouvoir attendre un petit peu avec ce but d'avance. 1-0 donc pour Lorient face à Lille, c'est la 9e journée de Ligue 1. Micro ouvert pour toi, Pierre-Yves, depuis le stade du Moustoir. Mais dans l'intégral sport, hein, vous le savez, on s'intéresse à tous les grands événements. Et c'est pour ça que on va prendre la direction du Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Désormais Qatar, Prix de l'Arc de Triomphe, 101e édition ce dimanche. La course reine du galop en France et donc très, très, très certainement dans le monde. Ça se dispute sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. À 16h05, on va retrouver sur place pour en parler nos meilleurs spécialistes hippisme de la rédaction RMC Sport. Alors à ne pas confondre avec des babacools, hein. Eux ce sont des spécialistes de course hippique, hein. Dimitri Blanc-L'Œil et Mathieu Zaccanini, salut messieurs.
Salut messieurs.
Salut Simon, salut,
salut Manu. Bah, et oui, effectivement, bah, on est parti, hein. On va vous faire vivre cet événement. Alors c'est à 16h05, ouais. Mais l'idée c'est de vous présenter le contexte, hein. Nous sommes à Paris-Longchamp, Mathieu, ambiance extraordinaire.
Ambiance extraordinaire, on compte près de 35 000 spectateurs, je pense, hein, ici dans l'enceinte de Paris-Longchamp. C'est bondé, il y a beaucoup d'étrangers, hein, beaucoup de spectateurs, des Japonais, des Anglais qui sont venus voir leurs favoris, hein, parce qu'il y a des Japonais qui vont participer à l'épreuve. Il y aura des Anglais, des Britanniques, des Irlandais, des Français, ils sont 7. C'est une épreuve magnifique puisque l'allocation est de 5 millions. Donc les 7 premiers, c'est bien ça, hein, les 7 premiers vont se partager 5 millions et notamment le vainqueur de cette compétition va recevoir un très joli chèque. Hein, le propriétaire sera très satisfait puisqu'il va empocher la coquette somme de 2 857 000 euros après avoir vu son cheval remporter et passer le poteau en tête dans cette compétition. Ils sont 20 aujourd'hui, Dimitri. Hein.
Bah, c'est exactement ça, t'as pas tout dit, mais t'as dit beaucoup de choses déjà, Mathieu, puisqu'ils sont 20 partants. 2400 mètres. On rappelle, 1 milliard le chiffre, c'est quoi? C'est un événement international retransmis dans 70 pays. C'est 1 milliard de téléspectateurs, Manu. Manu, ouais. Toi, tu vas regarder ça.
J'ai fait mieux, hein, pour la Coupe du Monde. Hein.
T'as fait mieux, toi, en Coupe du Monde?
Ah, ben, Coupe du Monde 82-86, on a été suivi, surtout la demi-finale en 82 et même en 86, par 2 ou 3 millions de téléspectateurs.
Hein. Vous aviez fait quoi en demi en 82, Manu? Je me souviens pas.
En demi? Ah. Tu vas pas.
Allez, je te taquille un peu. On rappelle à nos auditeurs.
Non, mais c'est quand même des bons souvenirs. Il ne faut pas non plus exagérer.
Ouais, c'est magnifique.
Immense, Manu Amoros, évidemment. Séville 82. Messieurs, on rappelle juste à nos auditeurs, hein, qui découvriraient, il y en a peut-être, Manu Amoros, n'est pas seulement un ancien joueur de football, pas seulement un consultant football. Il s'intéresse à tous les sports et il est très bon. Il est très bon en équitation. Je crois qu'il est allé goûter le gazon là, de l'hippodrome de Longchamp ce matin avant de faire son pronostic. Messieurs, on est à la radio, on peut pas voir, mais vous avez évidemment enfilé vos plus belles tenues, vos plus beaux chapeaux pour cet événement où on aime se faire voir et être vu. Est-ce que, je disais dans l'introduction, c'est vraiment la plus grande course de galop au monde? C'est vraiment le plus grand événement de galop au monde dans l'univers de la course hippique?
Bah, ça se discute toujours parce que tu sais, il y a pas qu'en France, il y a aussi il va y avoir les Champions Stakes par exemple en Angleterre, il va y avoir aux États-Unis aussi d'autres épreuves, le derby. Donc forcément chacun défend un petit peu son pain. Maintenant il y a quand même un classement qui est fait chaque année pour l'instant, ça fait 5 années consécutives que le prix de l'Arc de Triomphe, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ça a été chaque année quasiment ces dernières années, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe est considéré comme la plus belle course de galop du monde.
La plus belle épreuve, On peut en juger également avec le nombre de participants, de représentants venant d'autres pays. Il y a dans d'autres disciplines, c'est vrai que c'est moins fréquent. Bon, les Français des fois participent à des épreuves, que ça soit sur le sol anglais, sur le sol irlandais, mais là on va dire que tout le monde est là. Hein. Il y avait même des Australiens qui voulaient participer à l'épreuve. Hein, ça arrive régulièrement. Là il y a 4 Japonais, il y a également 5 représentants anglais. Il y a des Irlandais. Donc c'est vrai que au vu de l'allocation, au vu de l'engouement qu'il y a, comme on peut le voir, hein, on peut dire que c'est potentiellement, et puis on est un petit peu chauvin, que c'est la plus belle épreuve du monde dans la discipline du galop, en tout cas.
Oui, c'est Dimitri et Mathieu, comment se fait la sélection? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de demandes pour des partants. Comment se fait la sélection pour arriver jusqu'à 20?
Et ben justement, ça a été un problème cette année parce que en fait, c'est au niveau ce qu'on appelle du rating, c'est-à-dire que on te donne une valeur, hein, sur les chevaux par rapport aux performances. D'accord. Cette valeur, c'est évidemment France Gallo qui les donne et ça se joue pas à grand-chose, hein, rating, on va être en 54, 53 et demi, etc. Et c'était les 20 plus gros ratings, voilà, qui ont été accordés par France Gallo qui vont courir cette épreuve. Le souci, c'est que il y a des chevaux français par exemple qui étaient à 0,5 près, voilà, par exemple un cheval qui a 5, en 54 et l'autre en 53 et demi comme la Parisienne. moyenne, qui a totalement le niveau pour courir une épreuve de ce genre, mais qui ne peut pas courir puisqu'on a mis un rating plus élevé à d'autres chevaux. Ça a fait un peu polémique.
Voilà, ça fait un petit peu polémique puisque bah, la Parisienne est une excellente concurrente et elle n'a pas la chance de participer à cette compétition. Bah voilà, puisque il y a un handicapeur qui va définir une valeur, la valeur intrinsèque du cheval. Et là, ce rating était inférieur à d'autres chevaux qui avaient bah, soit on va dire plus prouvé par rapport à l'expérience, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des chevaux de tous âges. Il y aura des 3 ans hein, qui vont participer à l'épreuve, mais également des 4 ans, des 5 ans, des 6 ans et des 7 ans. Donc c'est vrai que plus on avance dans l'âge et on a fait des performances, plus le rating il est élevé tout simplement. Et donc il y a des chevaux qui sont restés un petit peu sur le carreau. Et ouais. Comme en fait cette compétition est support du Quintet Plus, selon la règle de France Gallo et du PMU, on ne dépasse pas en fait 20 partants pour pouvoir avoir une compétition Quintet Plus, pour tout simplement que cette épreuve soit une support du Quintet Plus.
On aurait pu courir à 21 en fait, mais il n'y aurait pas eu
Quintet Plus, voilà. Et comme il y a beaucoup d'enjeux sur le Quintet Plus et que c'est un pari très important, et bien tout simplement on a défini à 20 maximum.
France Gallo qui n'a évidemment rien à voir avec la star de la variété française, messieurs, il est bon de le rappeler, messieurs, une victoire au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, ça change la vie, la carrière d'un jockey, ça change la trajectoire d'un cheval, ça c'est il y a un avant, un après.
Bah, en parlant de jockey, c'est assez rare que ça soit un novice, voilà, qui gagne la course. Souvent, c'est déjà un jockey star hein, qui gagne la course, parce qu'on associe, bien entendu, quand on est propriétaire d'un cheval qui peut être au départ du Prix de l'Arc de Triomphe.
Oui, on met un bon jockey dessus.
Bah ouais, on demande à avoir les meilleurs. Donc vous voyez, vous avez Lanfranco des Tories, vous avez Christophe Soumillon, Maxime Guyon, Stéphane Pasquet, Michael Barzalona, William Bouygues. Enfin voilà, on peut tous les citer. Donc c'est pas que ça change leur vie, évidemment, ça change leur carrière, le palmarès.
Financièrement, mais ça change aussi pas mal de choses. Quand même.
Bah
c'est
oui,
très intéressant pour une course. Ah
bah d'ailleurs, on peut parler chiffres parce que les gens précisent ça. Bah 7% en fait de l'allocation à peu près, hein, va au jockey. Donc vous imaginez, si vous gagnez la course à 2 857 000, vous prenez pour un jockey comme ça quasiment 20 000.
Sur une course, parce qu'il faut le préciser, un jockey de renom va participer potentiellement à toutes les épreuves aujourd'hui qui ont des allocations vraiment très intéressantes.
200 000 en plus.
Il n'y a que des groupes,
c'est 200 000. C'est 200 000, voilà. 200 000 pour le vainqueur.
Et donc un jockey de renom, il participe à toutes les épreuves. Là, sur une seule course, il peut prétendre à prendre 200 000 euros, ce qui est conséquent. Et pour le propriétaire, bah c'est magnifique, parce que bah on enlève les 7% qui sont attribués au jockey, plus les 10% on va dire qui sont attribués à l'entraîneur, tout le reste va aller au propriétaire. Donc financièrement, c'est une très belle plus-value pour le propriétaire, et le cheval évidemment, sa valeur après, inestimable. Voilà, parce que pour peu que ça soit un mâle, bah voilà, il y a une valeur, les rejetons coûtent très cher, et pour les saillies, c'est une aubaine, hein, et financièrement c'est très très intéressant.
C'est comme pour Manu Amoros, sa carrière des talons est très chère. C'est ça.
Mais dis-moi, pour les femelles, c'est pas le cas en plus. La femelle qui va mettre bas, elle a été saillie par un mâle qui a gagné l'Arc de Triomphe. Elle ne prend pas beaucoup plus de valeur que le mâle, en fin de compte.
Bah en fait, en théorie, bah si justement, parce qu'en théorie, comment dire, la femelle ne peut mettre bas qu'une fois par an.
C'est
voilà,
ça,
la gestation, c'est 12 mois. Donc effectivement, elle a beaucoup de valeur parce qu'elle en fait que un par an. Alors que les saillies des cracks, c'est peut-être 100 cartes. Hein, ils peuvent faire 100 saillies dans l'année, voire un peu plus. Mais oui, c'est inestimable. En fait, c'est inestimable parce que ça ne se vend jamais. En fait, un cheval qui gagne l'arc, en général, il n'est pas vendu.
Non, voilà, il n'est pas vendu parce que rien qu'avec les saillies. Bah, le propriétaire va générer énormément d'argent. On va pas dire les prix varient, hein, mais pour une saillie, alors qu'on peut le cheval peut en donner une cinquantaine, voire une soixantaine par an, il peut vendre sa saillie 50 000 euros.
100 000 euros, voilà.
100 000 euros.
Donc, vous imaginez le calcul, on peut
donc
faire.
On fait le calcul.
Plus 100 000 euros que 50 000 hein, avec un cheval qui gagne.
On est parti sur une basse.
Ouais, oui, mais au galop, oui, c'est énorme.
D'accord.
Mais voilà, c'est très rentable. Et c'est pour ça que tous les grands entraîneurs et les grands propriétaires veulent remporter cette compétition.
On va peut-être parler pronostics.
Hein. Oui, alors dans un instant, messieurs, et c'est vrai qu'on va pas être pingre, hein, on parle quand même du Grand Prix de l'Arc de Triomphe, désormais Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, hein, 101e édition ce dimanche, la course à 16h05. Évidemment, à suivre avec vous, messieurs, sur RMC, la course reine du galop. Alors, en France, hein, je demandais dans le monde, mais au moins en France, on en est sûr.
Ou on peut dire au monde. Hein,
allez, au monde, soyons cocardiers. Ça se dispute sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On va parler avec vous, effectivement, dans un instant, Mathieu Zaccanini, Dimitri Blanc-Loeil, nos spécialistes, des qualités requises pour remporter cette course. Et on fera appel, évidemment, à vos pronostics et à celui de Manu Amoros, qui a toujours un œil aiguisé là-dessus. Avant ça, messieurs, petit détour par le stade du Moustoir dans l'Intégral Sport, la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit. Lorient-Lille, Pierre-Yves Leroux, où en sommes-nous?
Eh bien, toujours 1-0 après 28 minutes. Ce but contre son camp des Lillois à la 10e de Diakité. Mais on a failli revivre la même action, mais dans l'autre sens, avec un but contre son camp pour les Lorientais sur le débordement de Ounas. Côté droit, Talbi qui détourne en corner et il a failli tromper Mvogo. Mais on en reste pour le moment 1-0 à l'approche de la demi-heure. C'est Lorient qui mène à domicile.
Un micro ouvert pour toi, Pierre-Yves Leroux, en direct du Moustoir. Tu interviens évidemment sans sommation dès qu'il se passe quelque chose entre Lorient et Lille. Retour sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où nous attendent Dimitri Blanc-L'Œil, Mathieu Zaccanini qui nous commenteront tout à l'heure sur RMC. Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 101e édition, la course reine du galop en France, faut-il le répéter? Messieurs, c'est quoi le profil pour gagner? Me répondez pas être rapide, hein, ça on imagine. Le profil pour remporter, est-ce que il y a souvent des avant de vous demander précisément vos pronostics par rapport aux engagés du jour, est-ce qu'il y a souvent, je sais pas, des surprises ou est-ce que c'est toujours le ou un des favoris qui s'impose?
Alors déjà, on va parler d'une chose importante avec Mathieu, c'est du terrain. C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui, il a plu, en fait, au galop, c'est très très important le terrain. C'est-à-dire suivant les pluies, suivant s'il a fait beau, on a ce qu'on appelle un pénétromètre qui calcule en fait tout simplement. Oui, ça peut faire rire, mais qui calcule.
Ah, ça fait sourire. Hein.
Le taux de pénétration. C'est donc, on lâche une machine et elle pénètre dans le terrain. Et je peux vous assurer qu'au millimètre près, ce n'est pas la même chose pour les chevaux. Il y a des chevaux qui vont dans ce qu'on appelle le terrain lourd. Donc dès qu'il pleut, ce sont des nageurs. Et comme il a beaucoup plu cette semaine, je peux vous assurer qu'il va y avoir des gros écarts. Et quand c'est comme ça, eh ben on se dirige plutôt vers des chevaux qui ont montré une aptitude, Mathieu.
Exactement, c'est le paramètre, je pense, le plus important dans cette compétition. Et on s'en est rendu compte l'année dernière. Et Simon, tu le disais justement, il y a souvent des surprises. C'est ce qui est arrivé l'année dernière avec l'un des favoris cette année, mais qui était un énorme outsider l'an dernier. C'est un Allemand, c'est le numéro 2 Torquator Tasso, qui s'est imposé brillamment l'an dernier. Et il s'est imposé, on va dire, à 72 contre 1. Il a eu beaucoup de chance puisqu'il s'est fait ramener sur un plateau. Mais par contre, il a surtout cette faculté, cette aptitude à adorer le terrain lourd. Donc aujourd'hui, s'il pleut, ça devrait une nouvelle fois tirer les marrons du feu.
En gros, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est ça qu'on a envie
et
de vous dire.
C'est ça qu'on veut.
C'était effectivement le sens de ma question. Et effectivement, lorsqu'on est peu au fait hein, de la course hippique, c'est toujours les questions qu'on se pose. On se demande si c'est pas finalement un petit peu joué d'avance, parce que quand on voit les énormes différences qu'il peut y avoir entre les cotes des différents engagés, on se rend compte parfois que bon, c'est un petit peu nébuleux lorsqu'on n'a pas bien étudié ni le terrain ni la question. Avant de vous demander précisément quels sont vos pronostics, il y a quelque chose qui fascine également ceux qui ne connaissent pas bien la course hippique comme moi par exemple, c'est les noms des chevaux. Est-ce qu'il y a des noms qui ont retenu votre attention cette année, parce qu'il y a toujours beaucoup de créativité, on le sait, chez les propriétaires des chevaux de course.
Tu parles de noms qui sont drôles ou des noms
ça peut être drôle, ça peut être parfois un petit peu absurde. Il y a des références, on l'imagine, aux vies privées des différents propriétaires.
Oui. Bah, c'est souvent les éleveurs hein, qui donnent les noms.
Ouais.
Et ça, c'est souvent eux qui vont définir le nom. Après, il y en a des originaux. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les noms, il faut que ça reste toujours plus ou moins poli, hein. Très policé.
Oui, parce que c'est
sinon, on n'a pas le droit.
Ah bah oui,
on n'a pas le droit. Oui, il y a des règles.
Tu peux pas mettre ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est les institutions qui valident le nom. Maintenant, bon, parfois. On a quelques chevaux, c'est vrai qu'on a des noms drôles. Hein.
Des noms drôles, des noms, on va dire, sous-entendus.
Allez-y, parmi les engagés du jour, donnez-nous-en quelques-uns.
Bah, aujourd'hui, c'est très british.
Bah, par exemple, il y en a un cheval, il s'appelle Luxembourg, tout simplement.
Mais voilà.
Le nom du pays.
Du pays.
Exactement, voilà.
On a le droit d'utiliser comme ça le pays.
Bah écoute, faut croire que oui.
Non, c'est pas un problème, apparemment. Écoute, là-dessus. On a le droit, on a déjà vu ça assez fréquemment, des noms. Il y a eu des noms avec France, il y a eu des noms.
Mais c'est vrai que on n'a pas un peloton avec.
Là, il n'y a pas un peloton avec Simon avec un nom original.
C'est pas une grande cuvée pour.
C'est pas une grande cuvée, c'est très soft.
Alors, bah, du coup, vous allez nous en donner quelques-uns à l'occasion de vos pronostics. Chacun, sur qui misez-vous aujourd'hui pour ce 101e Qatar Prix de l'Arc de Triomphe?
Je vais laisser Mathieu donner son opinion, mais je crois que j'ai pas le même.
Non, voilà, on n'a pas du tout le même, parce que moi je vais tenter des petites choses, hein, parce que le terrain est propice. Alors est-ce que ça va être favorable pour mon favori ou pas? On va le savoir. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais n'ont jamais remporté cette compétition. Ils ont eu des différentes cartouches, des bonnes cartouches avec Orfèvre notamment, mais qui s'étaient inclinés. Là cette année, ils en ont 4. Alors selon Stéphane Pasquier, qui est intervenu hier dans les courses RMC, il dit que les chevaux japonais sont un peu surcotés, mais moi j'aime beaucoup le numéro 11 Title Holder. Alors, c'est pas un cheval qui est spécialiste de terrain lourd, puisque au Japon, c'est vrai que c'est souvent des terrains légers. Néanmoins, il a été façonné par son entraîneur de très belle manière. Il n'a couru que trois fois cette année. Il demeure invaincu en trois sorties en 2022. Il s'est imposé très facilement. Il a remporté la plus belle épreuve au Japon. Et je pense que cette épreuve avec le grand nombre de participants, le lot est très homogène. Il pourrait tirer son épingle du jeu, ce numéro 11 title holder, et offrir peut-être pour la première fois une victoire aux Japonais.
Bon, bah moi j'ai pas le même hein, Manu, on verra ce que Manu a aussi, mais
bien sûr.
J'ai pas le même parce qu'en fait Mathieu a presque tout dit dans sa phrase, puisque on a eu Stéphane Pasquier qui est l'un des plus grands jockeys de France qu'on a eu dans les courses AMC, qui d'ailleurs on le remercie, parce qu'à 24 heures d'une grande épreuve, il y en a beaucoup qui se mettent dans leur bulle, et lui pas de problème hein, entre deux courses.
Excellent.
Il nous a répondu, et lui, pour lui, voilà, je prends ses mots, il a dit les 4 chevaux japonais pour moi c'est trompette. Voilà, ça va pas gagner.
Après
voilà.
On a entendu beaucoup de jockeys parler de Torquator Tasso l'allemand l'année dernière, et finalement il s'imposait très facilement. C'est pour ça que je me dis quand il y a beaucoup de participants, c'est une question de parcours, et peut-être que ça pourrait être favorable pour ce numéro 11 title holder, même si l'épreuve est très très ouverte.
Avant de demander l'avis à Manu, juste moi je te donne le mien.
Bien sûr,
Alpinista, le numéro 14, qui est, alors c'est la favorite mais timide hein, 5,50€ la cote, c'est-à-dire que vous multipliez par 5,50€, ouais. Hein, si vous mettez 10€ vous prenez 55€, c'est pas
c'est
mal.
Très bien.
Parce qu'elle reste sur 7 victoires, on sait qu'elle fait le terrain un peu compliqué, et puis voilà, je pense qu'elle sera dans le coup. Si elle gagne pas, elle sera deuxième ou troisième, donc on devrait vibrer avec Alpinista. Je sais pas ce que t'en penses Manu.
Alpinista, ouais. Donc effectivement Manu, ton pronostic avant d'accueillir Sébastien et de passer au défi hippique.
Ouais. Bah, parce qu'il vous a dit quoi hier quand vous l'avez eu
son cheval, il est très chaud avec Onesto, Manu.
Ah ben bah, alors moi je prends celui-là, il faut faire un cocorico quand même. L'entraîneur est français, le jockey est français, donc moi je prendrai le 17 Onesto.
Allez messieurs, on va demander son avis à un amateur de course hippique, il a fait le 32-16, c'est Sébastien, c'est l'heure du défi hippique.
RMC,
le défi hippique.
Bah ouais, nous sommes partis avec Sébastien, c'est ça?
Ah bah oui, tout à fait.
Ah oui, excuse-moi, j'attendais pour savoir, Sébastien qui est avec nous. Salut Sébastien.
Salut.
Salut Sébastien.
Bon, Sébastien, t'as pas trop de pression, hein, c'est le prix de l'Arc de Triomphe, là tu vas devoir prononcer.
Non, ça va, c'est une course qui est... Ouais, c'est la plus belle course de plat de l'année, donc voilà. Puis il va pleuvoir cet après-midi, donc je pense que les cartes vont être rejouées. Donc moi, pour moi, ça sera... je sais pas, c'était qui a parlé juste avant. Bah, moi, ça sera Pasquier avec le 17. Donc moi, je pense que le cheval fait déjà la distance, on l'a vu dans le prix de Paris. Donc voilà.
Bah écoute, Onesto, t'es d'accord avec Manu Amoros hein,
ouais, bah, Manu. Et en plus, il va dans le terrain très souple, alors...
Alors, on lui oppose qui? Alors, on prend celui de Mathieu ou le mien? Alors, c'est ça la vraie question.
Non, Laurence, il va pas sur le terrain très souple. Donc, tu vas pas le prendre.
Merci,
c'est
mon
pas
Manu.
Hein.
Bah, ah, il est sympa. Ah, ouais, bah, je suis obligé de rester sur mes convictions. Je suis parti là-dessus. Je dois aller jusqu'au bout. Et ben, ça part dans le
on va lui opposer title order. Comme ça, ça laisse peut-être un peu plus de chance à l'auditeur.
C'est ça pour Sébastien. Et
on verra.
Et le 2, il n'a pas une chance de faire le doublé, non?
Ah ben, il y en a beaucoup qui nous en parlent, mais il y a un paramètre qu'on n'a pas évolué et qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, vous doutez bien. Ouais, ouais. Mais Torquator Tasso part avec le numéro 18 dans les stalles de départ, c'est-à-dire qu'il est tout à l'extérieur. On sait que c'est un cheval qui doit attendre, mais bon, il y a un peloton de 20 concurrents. S'il va derrière et qu'il doit avaler les 20, il peut finir à l'arrivée, mais pour gagner, voilà,
il va falloir qu'il bénéficie de la ligne droite.
Longchamp est longue. Hein.
C'est vrai, attention. C'est vrai. Et moi, ça m'embête.
On refait du terrain.
La fameuse expression, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Mais effectivement. Oui. Dimitri Blanc-L'œil, Mathieu Zaccanini, nos experts de course hippique à retrouver, évidemment, sur l'hippodrome de Longchamp, 16h05, la 101e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans l'Intégra Sport. On vous retrouve, évidemment, aux commentaires de cette course tout à l'heure. Et puis, les pronostics de nos spécialistes, de Manu Amoros et de Sébastien dans le défi hippique à retrouver sur le site rmcsport.fr.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et pendant que Manu Amoros trie ses fiches, ses tickets de pronostics pour ce prix de l'Arc de Triomphe, on va retourner très rapidement au moustoir. Lorient, Lille, Pierre-Yves Leroux, le temps, le score.
Avec 37 minutes de jeu dans cette rencontre. 1-0 pour les Lorientais grâce à Diakité contre son camp à la 10e. Mais attention, les Lillois qui poussent ces nouveaux corners à venir dans quelques instants.
On se retrouve dans quelques instants. L'Intégra Sport revient à la suite de la 9e journée de Ligue 1, le Grand Prix de Singapour en compagnie de Manuel Amoros. RMC, le temple du sport en live à la radio.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
À 13h38, vous êtes bien sûr RMC, l'Intégral Sport se poursuit. On est ensemble en direct jusqu'à 15h en compagnie de Manu Amoros, autour notamment de la rencontre de la 9e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et Lille. Dans un instant, on retrouvera Jean-Luc Roy du côté de Singapour, 17e manche du championnat du monde de Formule 1. Max Verstappen sera-t-il sacré champion du monde des pilotes pour la deuxième fois consécutive? On ira avec Jean-Luc qui va nous commenter à partir de 14h la course en compagnie de Denis Chevrier. On fera une petite présentation des enjeux de ce Grand Prix. Verstappen qui ne part que 8e sur la grille. C'est Charles Leclerc qui s'élancera en pole position à 14h lorsque les feux s'éteindront. Mais avant ça, petit retour au moustoir. Pierre-Yves Leroux, Lorient qui confirme son bon début de saison.
Et oui, il y a Paris, il y a Marseille et puis il y a Lorient, effectivement. Oui. Ils sont toujours troisième avec ce résultat. Pour le moment, 1-0 pour les Lorientais après 40 minutes. Ouverture du score à la 10e avec un but contre son camp de Diakité. Ensuite, les Lorientais ont continué à pousser. Il y a eu des occasions un peu de chaque côté. Et du côté Lorientais, dans ce dernier quart d'heure, il y a eu la possibilité pour Enzo Lefebvre. Il y a eu Diarra également. Mais les plus belles actions, elles étaient, et la pression quand même sur ces dernières minutes, ouais, elles étaient sur le but Lorientais avec avec un poteau, deux actions où on aurait pu avoir des buts contre son camp également. Et puis finalement, ils ne se sortent pas trop mal, les Lorientais. Mais c'est tout simple, à la demi-heure de jeu, c'était du 50-50 au niveau de la possession. Et en 10 minutes, on est passé à 55-45 à l'avantage des Lillois. Ça donne une bonne idée sur les 10 dernières minutes, là, comment les hommes de Paulo Fonseca ont maîtrisé le jeu et la balle, mais sans réussir à marquer.
Manu, une petite réaction, je sais que tu as gardé un œil sur la rencontre pendant qu'on parlait épisme.
Oui, c'est au niveau du mouvement. Les Lillois sont davantage en mouvement qu'en début de match où ils ont laissé pratiquement le ballon lui rentrer et qui ont fait le jeu et se sont créés des occasions. Et là, ils commencent à mettre le pied sur le ballon.
Attention,
plus de mouvement.
Ouais. Attention contre l'orienté avec Diarra qui part un petit peu seul là, il fait pas l'effort. Et puis Paulo Fonseca est pas content du tout parce que il y avait une faute sur Ismaili au début de cette action. Alors il laisse l'avantage, mais c'est vraiment un avantage qui est très précaire. Je pense qu'il aurait dû siffler quand il a vu tout de suite quasiment que les Lillois allaient perdre ce ballon. Donc il revient maintenant voir si le joueur ne souffre pas trop, mais voilà, ça aurait pu coûter cher quand même aux Lillois cette action. 4 minutes encore à jouer en première période et voilà, il met le carton jaune à Abergel. C'est un petit peu tard je trouve. Angel Gomez en avait pris un également, c'est le deuxième carton depuis le début de cette rencontre.
On sait que Paulo Fonseca, hein, la recette maison, c'est quand même la possession de balles, donc double avantage pour les Lorientais après cette ouverture du score qui, tu le faisais remarquer Pierre-Yves, vont pouvoir contrer, même sans entrer dans les clichés, attendre un petit peu et puis se projeter devant avec la vitesse de leurs attaquants.
Oui, mais ils reculent quand même pas mal.
Ils ont un petit peu abandonné le ballon, c'est vrai.
Ouais, donc parce qu'ils n'ont plus la possession du ballon, donc ils reculent et ils s'exposent bien sûr aux diverses actions de Lille.
D'ailleurs, alors image très forte là, Manu et Simon, il y a l'arrêt de jeu parce qu'Ismaili est au sol. Ouais. Tous les joueurs viennent boire certes, mais surtout Régis Lebris en profite pour faire un petit point. Et évidemment qu'il a vu ça, que son bloc était en train de reculer, et il redonne des consignes pour que ça change. On va voir sur les 3 minutes qui viennent là justement s'il y a un potentiel changement. Paulo Fonseca lui n'a pas redonné de consignes de son côté, il a surtout surveillé pour voir si Ismaili se relevait et pouvait poursuivre cette rencontre, ce qui est le cas pour les 3 minutes en tout cas avant la pause. Les Lillois, on rappelle, sont menés 1-0 ici au moustoir.
Lorient-Lille, c'est la suite de la 9e journée de Ligue 1 à suivre comme chaque week-end évidemment sur RMC en direct en compagnie de Manu Amoros, Pierre-Yves Leroux aux commentaires. Le temps pour moi de vous préciser que à partir de 15h, Intégra Sport qui se poursuit, ce sera autour de François Pignet en compagnie de Sébastien Piocel, notre autre consultant. Ajaccio Clermont, Auxerre Brest, Toulouse Montpellier et Troyes à Reims qui vous attendent en multiplex évidemment sur l'antenne de RMC. Je rends la main à Pierre-Yves Leroux pour la fin de cette première période.
2 minutes, le danger, il vient très souvent côté Lillois de Ounas, mais là ça va passer par le centre, malheureusement pour les Lillois, cette frappe signée Angel Gomez s'envole largement au-dessus des buts de Mvogo. Mais c'est vrai que Ounas, c'est quand même le danger principal, la capacité d'accélération. Manu, elle était dingue tout à l'heure sur une action. C'est fort
c'est très fort. Et puis bon, il faut qu'il fasse quand même attention sur le côté de pas trop
faut lui laisser de l'espace parce qu'il a un très très très, très bon pied gauche, il peut mettre la balle où il veut.
Oui, oui. Et puis surtout, tout à l'heure, ça a été le cas aussi, la capacité à vraiment mettre le bloc, l'orienter complètement en panique et vraiment à perturber sur des décisions. Il a encore le ballon, il accélère très vivement, il réussit à centrer et la porte se jette pour repousser ce ballon. Il y en a un qui va à 10 km/h et l'autre qui va à 20. C'est pas à cette vitesse-là en fait, hein, mais ça va plus vite que ça. Mais il y a une différence énorme là entre le Goff et Ounas qui souffre énormément sur cette première période. Et l'Orienté qui récupère le ballon. On entre dans la dernière minute de cette première période où encore sous les yeux de monsieur Ben Eladj, un carton qui sort. Ça doit être pour Benjamin André, me semble-t-il, ou Jonas Martin. Ouais, c'est Jonas Martin qui prend ce carton avec Julien Pomonceau qui remet le ballon à Enzo Lefebvre. Et derrière, il y a la faucheuse qui était sortie. Ça donnera un nouveau carton jaune.
C'est un peu dur.
C'est pas tout à fait la faucheuse. C'est
le pied en avant. Ouais. Il essaie de récupérer le ballon. Malheureusement, c'est vrai qu'il touche pas le ballon, il touche le joueur.
Ouais. Petite parenthèse, je précise à nos auditeurs, hein, qui je rappelais qu'on serait rapidement avec Denis Chevrier et Jean-Luc Roy au commentaire du Grand Prix de Singapour pour une présentation des enjeux de cette course.
Il pleut.
Départ du Grand Prix de Singapour, et oui, il pleut toujours à Singapour, ça a perturbé les essais qualificatifs d'hier. Le départ de la course est retardé, apprend-on. Grâce à un petit bandeau là de la réalisation de la FIA, on n'a pas encore de délai. On retrouvera Jean-Luc et Denis sur RMC dans l'Intégral Sport à partir de 14h juste après les infos.
C'est le souci ça, Simon, c'est qu'on peut avoir des chevaux nageurs, on peut avoir des joueurs ici sous la pluie qui jouent, mais
les monoplaces nageuses, on n'a pas encore effectivement.
Ça s'appelle un bateau. Tiens d'ailleurs, ce match il est sous les yeux d'un certain Jérémy Bayou, le skipper, qui m'a envoyé un petit message en disant je suis assis à côté de Florian Maurice, s'il rentre tout à l'heure de jeu, je rentre avec lui. Voilà, il est prêt.
Redoutable attaquant des années 90. Maurice,
en voisin et en observateur évidemment.
Et peut-être en espion même.
Ouais, exactement.
Effectivement, je voulais poser la question. Alors qu'il y a combien de temps on va. Oh, non, mais je vais te laisser la main, Pierre-Yves, parce que ça on est bientôt à. Ouais. À la pause.
Ouais, ça va être la pause tout de suite. Le ballon dans les pieds des Lillois qui sont menés 1-0 et qui vont rentrer au vestiaire puisque monsieur Ben Eladj siffle à l'instant la mi-temps, but contre son camp, donc à la 10e minute de Diakité qui permet aux Lorientais pour l'instant de mener sur leur pelouse.
Ouais, merci beaucoup Pierre-Yves, on te retrouve pour la seconde période de ce Lorient-Lille, la suite de la 9e journée de Ligue 1 dont vous ne ratez rien sur RMC. Avant de se quitter quelques instants, Manu, petit débrief d'ensemble, sentiment général sur cette première période.
Écoute, avantage mérité, oui. Dans les débuts de match, Lorient est rentré vraiment beaucoup plus avec de l'envie, de l'agressivité, et s'est créé énormément d'occasions. Et puis il y a eu ce but de Diakité qui a remis Lorient dans le bon chemin. Et après, au fur et à mesure de cette demi-temps, c'est plutôt Lille qui a maîtrisé le ballon, qui a récupéré le ballon et s'est créé elle aussi pas mal d'occasions. Donc mérité, mais il fallait quand même faire attention à ces Lillois.
Si tu étais à la place de Fonseca, l'entraîneur du LOSC, qu'est-ce que tu dirais à tes joueurs là au vestiaire?
De jouer un peu plus haut et d'aller presser davantage parce que Lorient, on a l'impression qu'ils sont quand même assez fébriles derrière dans le positionnement et le repositionnement, ils sont pas très 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 bien en place et Ounas peut faire la différence. Donc voilà, à continuer à jouer comme ça, mais monter un peu plus haut.
Et c'est Ounas, toi, qu'on est content de revoir en Ligue 1. Il a pris un petit peu de maturité, il a un petit peu galéré à Naples, mais bon, il a dû apprendre un petit peu son métier. Toi, l'ancien latéral, qu'est-ce que tu conseillerais aux défenseurs lorientais pour réussir à contenir?
Dès qu'il va recevoir le ballon, monter sur lui, l'empêcher de se retourner et se mettre en position de pas utiliser son pied gauche, mais plutôt le droit, où je pense qu'il est moins bon là-dessus.
Donc on est obligé de prendre des risques face à un tel joueur.
Ah bah oui.
Et prendre le risque évidemment de se faire éliminer par la qualité.
Il faut pas quand on est défenseur, il faut pas se faire éliminer.
Ah bah oui, non, ça c'est sur le papier, c'est toujours plus facile.
C'est toujours
à
facile
dire
hein, de dire. Hein.
Lorient, troisième de Ligue 1 qui mène en plus à la pause de 1-0 face à Lille, c'est la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit. La seconde période à vivre évidemment en direct dans l'Intégral Sport dans un instant. Le Grand Prix de Singapour, départ retardé à cause des conditions météo, il pleut toujours sur Singapour, ça ne nous empêchera pas de rejoindre Jean-Luc Roy et Denis Chevrier pour faire un point sur les enjeux de cette course. Tout ça, ce sera après une courte pause. Et les infos, Alfred Orange s'installe en studio. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Simon Dutin.
Très 13h54, vous êtes bien sûr RMC dans l'Intégral Sport, votre rendez-vous chaque week-end pour le sport en live. Vous ne ratez rien de tous les grands événements du sport mondial. On suit notamment la suite de la 9e journée de Ligue 1, la rencontre entre le FC Lorient et Lille. Les Merlus qui mènent 1-0 à la pause et qui confirment leur surprenant, détonnant début de saison. On retrouvera Pierre-Yves Leroux dans un instant pour suivre en direct la seconde période de cette rencontre. On est en compagnie de Manu Amoros, notre consultant de la Dream Team, qui a un œil aiguisé évidemment sur cette rencontre, mais pas seulement, immense amoureux et connaisseur de tous les sports. Manu, tout va bien toujours?
Ouais, tout va bien, impeccable.
On se régale un beau match avec l'ouverture du score des Lorientais, ouais. et la belle réaction lilloise. On attend confirmation en seconde période. On va avoir le temps d'en reparler, le temps pour moi de dire aux auditeurs que à partir de 14h devait s'éteindre les feux sur le circuit de Singapour pour la 17e manche du championnat du monde de Formule 1. Départ retardé en raison des abados sur la piste. On voit sur la réalisation de la FIA actuellement les commissaires de course et les employés du circuit qui balayent un petit peu l'eau. Et ben, ça tombe bien, je crois que Jean-Luc Roy et Denis Chevrier nous attendent en direct de Singapour. Bonjour messieurs.
Oui, bonjour Simon, salut Manu, bonjour à tous.
Bonjour.
Messieurs, qu'est-ce qui se passe? On nous avait dit 14h, nous, alors qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y a vraiment trop d'eau, il continue de pleuvoir à Singapour. À quelle heure on peut espérer voir les feux s'éteindre?
Alors, à l'instant, on vient d'avoir des nouvelles, Simon. Il y a une minute exactement que la direction de course, qui dans ces cas-là, tu sais, repousse les nouvelles de quart d'heure en quart d'heure. Là, on vient de nous dire que la procédure de départ démarrera donc à 20h05 local, donc 14h05 heure française. On ouvrira la voie des stands à 14h25. On la fermera à 14h35 et départ du tour de formation à 15h05 heure française. Donc 1h05 de retard par rapport à l'horaire initial.
Manu, on va être privé de Formule 1. Voilà. C'est comme ça.
Non, pourquoi?
Bah nous, toi et moi en tout cas, avant 15h.
Ouais, bon, on va s'installer sur le canapé et regarder le Grand Prix quand même.
Et le principal, c'est que les auditeurs de RMC puissent suivre cette bien course et finalement en direct. Ça nous laisse le temps avant que ça reprenne en Ligue 1. Messieurs, je vous garde juste quelques instants. Très rapidement, on rappelle les enjeux de cette course, le sacre possible pour Max Verstappen, même si il aura fort à faire. On espère qu'il aura mis un petit peu d'essence dans sa voiture.
Tu peux faire de l'humour, effectivement. Ça doit être les budgets. Tu sais, les budgets sont serrés.
Oui, c'est ça. On a plus
assez de moyens pour mettre de l'essence pour terminer le tour. Non, c'est vrai que ça lui a coûté cher à Verstappen. Il était fou furieux contre son équipe, effectivement. Le tour précédent, il aurait pu être en mesure de décrocher la pole. Il était le plus rapide dans le premier et dans le deuxième secteur. Et puis lui-même a choisi d'avorter ce tour parce qu'il a commis une petite erreur dans la troisième partie. Il pensait qu'il lui en restait un possible à fond. Et puis ça n'a pas été le cas. Donc tu as raison de plaisanter avec ça. Alors pour les enjeux.
On rappelle que du coup, il ne s'élance qu'à la 8e place aujourd'hui, oui. Au départ de ce Grand Prix, parce qu'effectivement, il n'avait plus assez d'essence. On se charge au minimum en carburant pour alléger la voiture pour les essais, et du coup, il n'a pas pu terminer son tour de qualif hier. 8e d'un Grand Prix dont Charles Leclerc partira une nouvelle fois, j'ai envie de dire, en pole position, la 9e cette saison pour le pilote Ferrari.
Ah ben oui, c'est carton plein pour Charles qui avait déjà effectué la pole position lors du dernier Grand Prix disputé ici il y a 3 ans, hein, seulement en 2019, pour cause de pandémie évidemment par la suite, annulé en 2020 et 2021. Et c'est vrai que ça fait la 18e pole de sa carrière de pilote de F1, c'est quand même absolument remarquable. Il est au même niveau que Kimi Raikkonen, hein, par exemple, donc c'est quand même extrêmement performant. Alors est-ce qu'il va être en mesure, sur une piste mouillée évidemment, il va avoir un avantage considérable, c'est la visibilité, puisque s'il prend un très bon départ et qu'il parvient à devancer Sergio Pérez, qui sera à ses côtés, et bien il aura une piste, lui, relativement claire par rapport, évidemment, à la boule d'eau qu'il y aura derrière dans son sillage.
Le départ de ce Grand Prix, vous nous le disiez, 15h05, a priori, si la pluie ne se remet pas à tomber. Jean-Luc Roy, Denis Chevrier, évidemment, comme d'habitude, aux commentaires de ce Grand Prix. Messieurs, je vais vous demander la base, hein, votre pronostic. Sur qui allez-vous miser pour remporter cette course?
Alors c'est toujours la question piège.
Il faut se mouiller, j'ai envie de dire, surtout aujourd'hui.
Je vais mouiller. Bah écoute, je pense que Charles Leclerc s'est montré extrêmement rapide, extrêmement performant. Il avait eu des ennuis pourtant vendredi de développement et de mise au point. Mais moi je miserai sur Charles, surtout si la piste est mouillée et si Ferrari évidemment ne commet pas ni d'erreur de stratégie et trouve les pneus pour en mettre 4 sur la voiture quand il va s'arrêter.
Denis, tu es d'accord avec ça?
Oui, alors déjà les pronostics, j'ai jamais été très bon. Bon, ça c'est une chose. Quand il pleut, c'est encore plus compliqué. Je dirais que effectivement, Charles Leclerc, il le faudrait. Ce serait bien pour lui. Je pense qu'il le mériterait. Faut pas oublier Lewis Hamilton, pas loin du tout sur la grille, troisième, et qui a désespérément besoin d'essayer de gagner un Grand Prix cette saison, qui peut être très bon sous la pluie, comme dans d'autres circonstances d'ailleurs. Et qui peut se révéler un redoutable concurrent, bien aidé, comme l'a mentionné tout à l'heure Jean-Luc, par une équipe qui fait quand même peu d'erreurs de stratégie. Et ça peut être très intéressant de voir un Hamilton partir troisième sous la pluie.
Charles Leclerc pour Jean-Luc Roy, Lewis Hamilton pour Denis Chevrier et pour Manuel Moros.
Ouais, moi, je voulais demander à Jean-Luc, est-ce que c'est un circuit qui peut, où on peut voir une voiture de derrière revenir, comme Verstappen, il peut revenir?
Alors écoute, il l'a dit lui-même, Manu, c'est vrai qu'il nous a habitués à des remontées météoriques. Ouais. On a vu partir 14e pardon, à Spa et gagner, 7e encore récemment. Là, il le dit lui-même, ça va être plus difficile. Il y a 3 zones de DRS pourtant, mais tu sais, c'est un circuit en ville. Oui. J'allais dire, si le pilote qui est devant toi veut tout faire pour t'empêcher de passer, bah, c'est un peu du Monaco, hein, pour être clair. Donc surtout si c'est mouillé, ça va être très délicat. Il va remonter, bien sûr qu'il a, il a Pierre Gasly devant lui, il a Lando Norris, normalement il a Fernando Alonso. Allez, remonter 3-4e, oui, mais après, ça va être plus difficile.
En tout cas, c'est vrai, tu le rappelais, Jean-Luc, il nous a habitués à des remontées fantastiques. Et puis, il y a quand même un titre des pilotes à aller chercher au bout, même si on imagine qu'avec son mental, il ne doit pas être trop perturbé par les rumeurs, là, cette polémique sur une éventuelle, possible, hypothétique destitution de son titre de l'an dernier. Red Bull qui a utilisé un peu trop d'argent pour développer la monoplace qui a remporté le titre l'an dernier. Grand Prix de Singapour dans le départ et retard. À 15h05, tour de formation en raison des conditions météo qui s'abattent sur le circuit. Ce sera, quoi qu'il arrive, quel que soit l'horaire du départ, à suivre en direct en intégralité. Avec vous, messieurs Jean-Luc Roy, Denis Chevrier, aux commentaires. Vous allez vous mettre à l'abri d'ici là et vous retrouverez François Pinet, Sébastien Pleussel dans l'Intégral Sport pour nous faire vivre cette grande course. Merci beaucoup, messieurs, et à tout à l'heure sur l'antenne de RMC. Manu, tu restes avec moi, on retourne au moustoir. Pierre-Yves Leroux, ça vient de repartir entre Lorient et Lille.
Mais oui, parce qu'ici, on n'a pas peur de la pluie. Reparti, ça joue 1-0 pour les Lorientais. Diakité contre son camp à la 10e minute. Pas de changement pour le moment. Il y en aura très certainement, mais pas à la pause. Les Lillois qui ont bien poussé sur le dernier quart d'heure, mis en difficulté les Lorientais, mais qui n'ont pas réussi à revenir à égalité. Et les Lorientais, eux, qui vont tout faire, évidemment, pour mettre ce deuxième but et faire plonger un petit peu plus les Lillois. Ils sont en possession du ballon et ça va même filer jusqu'à Mvogo. 30 secondes de jeu, 1-0 donc pour les Lorientais pour le moment.
Alors 30 secondes de jeu, c'est peut-être pas suffisant pour se faire un avis, mon cher Pierre-Yves, mais durant la pause, Manu me disait, à la place de Fonseca, l'entraîneur lillois, je demanderais à mes joueurs d'aller chercher plus haut les Lorientais. Est-ce que tu as vu un changement à ce niveau-là depuis le retour des vestiaires?
Pas pour l'instant, mais pour tout te dire, je sais qu'ils s'y attendent, les Lorientais. Ils ont beaucoup travaillé ça à l'entraînement et surtout à réussir à ressortir proprement dans ces cas-là pour justement mettre en difficulté en contre derrière l'équipe lilloise. Donc pour le moment, ils sont plutôt en possession du ballon à hauteur de la ligne médiane et je surveille surtout quelque chose, c'est ce qui se passe entre Ounas et Enzo Lefebvre, parce que pour tout vous dire,
ils se sont chauffés.
Ouais. Exactement, ils se sont chauffés en sortant du terrain tout à l'heure. J'ai vu que monsieur Ben Eladj surveillait la situation et il est venu dire quelque chose à Enzo Lefebvre. Très certainement on se calme parce que sinon on peut très bien prendre un carton même en dehors du terrain, même quand j'ai sifflé. C'est peut-être ça qu'il a dit. Et là, à l'instant, eh bien, les deux joueurs qui sont dans le même secteur de terrain étaient à la lutte tous les deux, mais ça va, ça s'est bien passé. Enzo Lefebvre qui récupère le ballon, qui va pouvoir lancer sur le côté gauche. Ouattara qui perd le ballon et les Lillois qui vont repartir, mais ça va faire partie des duels intéressants à suivre, tout comme Ounas qui a mis en difficulté le Goff en première période et qui se retrouve en possession du ballon dans le vent et la pluie à hauteur de l'entrée de la surface de réparation côté droit. Et finalement, c'est dégagé par les Lorientais. Ils n'ont pas trouvé la faille sur ce coup-là. Après 47 minutes, 1-0 toujours pour Lorient.
Ounas qui vient de montrer quand même sa créativité, Manu. Il avait trouvé une belle passe, mauvaise. mauvais contrôle de l'attaquant lillois, mais il avait trouvé une superbe passe verticale.
Exactement, ce qu'on disait tout à l'heure, que s'il n'y a pas un joueur de Lorient qui monte sur lui, il va mettre en difficulté par sa précision, au niveau de la passe. Donc à partir de là, il faut faire très attention. Et en plus, les Lillois jouent énormément sur ce côté-là. Donc s'il n'y a pas de couverture ou il n'y a pas de joueur qui monte sur lui, ça risque d'être compliqué.
Et souvent, quand on a la technique pour dribbler, on a la technique pour passer. On a tendance souvent à catégoriser les joueurs, mais Ounas, il sait faire tout ça. Et avec un petit peu de maturité, on le disait certainement suite à son passage en Italie, il peut faire de gros dégâts en Ligue 1, le joueur formé au Girondins de Bordeaux, qui a trouvé sa place finalement dans le collectif lillois. Il est arrivé un petit peu en...
C'est son quatrième match là seulement.
Ouais, mais il commence effectivement à faire sa place après une arrivée effectivement discrète. Ça n'a pas été la recrue la plus remarquée de l'intersaison côté lillois.
Ouais, mais effectivement, là, c'est son quatrième match. Il enchaîne désormais. On a compris du côté de Paulo Fonseca que ça pouvait être évidemment le joueur qui fait la différence techniquement. Il est un peu au-dessus. Il le démontre pour le moment, même si ça n'a pas permis aux Lillois de revenir dans cette partie pour le moment. Mais ça pourrait changer. Là, ça va être un coup franc pour les Lorientais. Enzo Lefebvre, juste devant la tribune de presse. C'est parti. Le pied droit. Ouh, ça me paraît bien long, ça. Oui, ça sera au troisième, quatrième, voire cinquième poteau. Juste à côté du poteau de corner. Ça, c'est vraiment tactiquement très mal joué de la part d'Enzo Lefebvre, qui nous habitue à beaucoup mieux, le garçon qui progresse énormément de mois en mois. Mauvaise relance du côté lillois à l'entrée de la surface de réparation avec Julien Ponceau qui va réussir à centrer. Ouh, c'était chaud, mais c'est dans les bras de Lucas Chevalier, le gardien lillois, qui va pouvoir relancer. Attention aux hésitations là du côté lillois. Nouveau ballon pour Ounas sur le côté droit, à nouveau à la lutte avec Enzo Lefebvre. À la course, Enzo Lefebvre, il est sans doute un petit peu moins rapide, mais Ounas avec le ballon n'a pas réussi à le passer. En revanche, il a du soutien derrière. Il va une nouvelle fois récupérer le ballon et cette fois il va passer, rentrer dans la surface de réparation avec le petit dribble, mais le Goff est là pour intercepter. Il faut s'y mettre à deux pour le stopper, le Lillois, sinon il fait de graves dangers, de graves incursions dans la défense lorientaise. Les Lillois qui remettent le pied sur le ballon à l'instant dans l'axe désormais avec Ounas à nouveau. On passe beaucoup par le côté droit. Voilà, c'est reparti avec le centre à venir très certainement. Le pied gauche s'est enroulé, c'est au deuxième poteau. Il y a une tête, celle de Laporte, pour dégager côté Lorientais. 50 minutes, 1-0 pour Lorient.
Manu, si les Lorientais continuent à laisser le ballon comme ça aux Lillois, ils vont quand même rapidement être en danger là.
Hein. Ah ben, ils vont être en danger, ils vont prendre sûrement un premier but et là il va falloir après avoir un moral d'acier pour pouvoir revenir et ne pas prendre ce second but où ils perdent peut-être ce match-là. Mais voilà, pour l'instant ils n'ont pas pris le but, ils ont eu beaucoup de chance en première mi-temps de ne pas le prendre. Et là, bon, on peut voir aussi sur des actions assez rapides des Lorientais qui peuvent mettre en difficulté quand même cette défense lilloise à 3 quand même. Hein.
Ouais, c'est un peu le qui tout double finalement. C'est soit cette équipe lilloise, elle arrive à mettre ce but qu'elle n'arrive pas à mettre maintenant depuis plus de 50 minutes, soit effectivement en contre ils vont prendre le deuxième et derrière ça sera compliqué. Mais il faudrait pour ça que ça soit un petit peu plus tranchant du côté des attaquants lorientais, à l'image de Ouattara, de Diarra et de Terem Moffi. Mauvaise relance là lilloise encore avec cette frappe de Ouattara il y a quelques instants qui passe très très loin, début de Lucas Chevalier. Les Lorientais qui récupèrent une nouvelle fois le ballon, mais on sent vraiment que cette rencontre elle peut basculer d'un côté comme de l'autre pour le moment.
Les Lillois font beaucoup d'erreurs quand même techniques. Hein. On l'a vu relances, tout à l'heure, un ballon perdu pas très loin de la surface. Là, un ballon quand même assez facile perdu au milieu de terrain. Il va falloir que techniquement, ils se soient un peu plus justes.
Ouais, exactement. Il y a eu deux mauvaises relances en ce début de deuxième période. Attention, Dango Ouattara, le centre, encore une fois. Là aussi, ça, c'est pas assez juste techniquement pour mettre en danger la défense lilloise. Ça fait deux fois, c'est bon dans l'envie, c'est bien dans l'énergie, mais au niveau de la qualité technique derrière c'est pas assez précis et c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à mettre le deuxième, les Lorientais.
Oui mais Pierre-Yves, le fait que de récupérer le ballon quand même assez haut, ça donne confiance aussi aux joueurs de Lorient. Et donc même si le dernier geste est pas bon, mais de récupérer ces ballons là ça leur donne confiance et ils continuent dans cette cette voie-là.
C'est sûr, ça évite de se mettre en danger. On reste dans les 40 mètres autour du but adverse. Et d'autant plus que là, tu l'as vu très certainement, il y a encore eu un ballon très mal relancé par les Lillois. Ça fait quand même beaucoup, c'est assez surprenant de la part de cette équipe. Avec José Fonte qui va chercher en profondeur une solution, c'est le cas en deux temps avec finalement le ballon perdu par les Lillois et récupéré par les Lorientais juste devant Régis Lebris. Grosse bagarre là en milieu de terrain. On a l'impression d'être déjà en plein hiver avec cette pluie, ce vent. Là, c'est pas facile, hein, les conditions de jeu. Et on s'arrache en milieu de terrain pour essayer de récupérer le ballon. Ce sont les Lorientais qui vont avoir le dernier mot sur le côté droit là-bas avec Diarra qui va finalement attendre un petit peu de soutien. Et long ballon, là c'est bien joué encore pour Dango Ouattara, mais ça va fuser. Est-ce qu'il va réussir à s'en emparer? Oui, il y a de la pluie, c'est humide, mais pas suffisamment pour que ça aille jusqu'en touche. Mais derrière, encore cette mauvaise qualité derrière dans le dribble. Là, il tente quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué, mais il échoue et permet aux Lillois de récupérer le ballon. Pas de but dans ces 8 premières minutes en deuxième période, avec des journalistes à côté de moi qui remontent un petit peu parce qu'ils sont trempés au rang devant. Ma place est bonne, faut pas que je change.
Juste bon état. T'es un habitué, toi, Pierre, tu te connais, tu vas directement en place protégée en tribune de presse.
Ça joue un peu de choses, mais pour l'instant, ça va.
Ouais, c'est la preuve que les conditions vont quand même influer sur le spectacle proposé aux spectateurs et peut-être sur le résultat. Dans ces cas-là, je vais te poser une question très bête, Manu, qui est avantagé, les locaux, les Merlus dans leur stade?
Les locaux sont avantagés parce que il pleut régulièrement à Lorient et puis on s'entraîne sous la pluie et c'est bien. Mais là où ils sont en difficulté, les Lillois, c'est que à trois derrière, quand ils ont le ballon, s'ils arrivent à construire, ça va, ils passent la ligne médiane, ils peuvent sans problème. Mais après, au milieu de terrain, ils perdent régulièrement le ballon et il n'y a pas Ismaili qui revient et il n'y a pas non plus Martin qui revient. Donc il faut faire attention de ne pas se retrouver en infériorité numérique.
Ouais, complètement. Et c'est le cas là à l'instant. Ils ne sont pas revenus. Enzo Lefebvre qui récupère. Alors il n'y a pas trop de Lorientais. Il y a Julien Ponceau qui va pouvoir le récupérer. Ils sont que 4. Ça n'a pas été assez vite là cette fois du côté Lorientais. Mais malgré tout, il y a peut-être une possibilité dans le trou. Voilà. On est servi du côté de Diarra. La remise derrière vers Dango Ouattara. Il y a José Fonte qui est là. Et finalement, la frappe de Thierry Bonfils. Elle est captée par Lucas Chevalier. On réclame une petite main du côté Lorientais. Alors, je n'ai rien vu moi dans le live. On va peut-être surveiller ça du côté de la vidéo. Ça semble jouer et repartir pour le moment. Lucas Chevalier qui récupère le ballon. Mais voilà, action dangereuse quand même pour les Lorientais sur ce coup-là. Exactement sur ce que tu venais de décrire, Manu, c'est-à-dire attention à ne pas être en déséquilibre et à laisser finalement un bloc coupé en deux. On l'a bien vu là avec les Lorientais qui repartaient à l'attaque.
Oui, parce que c'est bien de vouloir revenir assez rapidement, mais il faut avoir quand même de la sécurité derrière. Quand on perd le ballon et qu'ils en perdent régulièrement dans leur moitié de terrain, il faut aussi revenir.
Ouais, attention.
Et c'est pas évident pour eux.
En tout cas, c'est un match plaisant, hein, parce que ça va d'un but à l'autre. Oui. On s'en doutait un petit peu, mais ça se confirme. Corner à venir pour Lille avec Ounas qui va pouvoir aller frapper ce corner. Il était à la lutte encore avec Vincent Le Goff, l'ancien Nantais formé chez les Canaries, là, qui a du boulot aujourd'hui. Ouf. Mais il s'en sort bien sur ce coup-là. Il parvient à mettre le pied pour pousser le ballon jusqu'au corner avec ce coup de pied de coin, comme on dit, du côté de la Belgique, qui est frappé de la droite vers la gauche au premier poteau. José Fonte qui récupère de la tête, ça va revenir jusqu'au tireur de corner avec ce ballon qui tourne autour de la surface de réparation et ça se termine par une frappe d'Angel Gomez mais qui est détournée, repoussée par les Lorientais. On était côté droit et on va maintenant se projeter sur le côté gauche de l'attaque lilloise. Les Lorientais qui à nouveau souffrent un petit peu même s'ils
subissent,
mettent toujours
subissent.
Et les Lorientais qui mènent pourtant toujours 1-0 sur leur pelouse du Moustoir face à Lille. C'est la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit dans l'Intégral Sport. On revient dans un instant pour suivre la seconde période de cette rencontre. Est-ce que les Lorientais vont confirmer leur bon début de saison? Vont-ils tenir leur avantage face à des Lillois qui ont le ballon depuis de nombreuses minutes et qui poussent sur le but des Merlus? À tout de suite dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
14h17, vous êtes bien sûr à RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 15h en compagnie de Manu Amoros, autour notamment de la rencontre de la 9e journée de Ligue 1, Lorient, Lille. Lorient qui mène toujours 1-0. On va retrouver Pierre-Yves Leroux dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que le départ du Grand Prix de Singapour a été retardé d'un peu plus d'une heure. Tour de formation prévu à 15h05 et non à 14h comme c'était initialement le cas. Il pleut sur le circuit de Singapour. Départ donc à 15h05. Vous ne manquerez pas une miette de la 17e manche du championnat du monde de Formule 1. Ce sera en compagnie de François Pinet qui sera à partir de 15h aux commandes de l'Intégral Sport en compagnie de Sébastien Piocel, notre consultant. Je vous rappelle que notre ami Fabio Quartararo a connu une terrible désillusion lui ce matin au Grand Prix MotoGP de Thaïlande, 17e seulement alors qu'il s'est lancé 4e, alors que son rival Bagnaia a fini 3e et donc lui reprend combien, je ne sais plus, mais il revient à 2 points seulement au classement général des pilotes. Ça va être chaud à 3 Grands Prix de la fin. Rendez-vous en Australie pour tout le paddock de la MotoGP. Dans un instant, on parlera du derby de Manchester avec Arnaud Valadon, mais on retourne au moustoir. Pierre-Yves Leroux, il vient de se passer quelque chose.
Vous allez m'expliquer. Dango Ouattara qui prend un jaune, et puis derrière un rouge pour une faute sur Ounas. En fait, Ounas déborde côté droit. Dango Ouattara est un petit peu court. Il lui fait un croche-pied, et puis derrière, alors est-ce qu'il se plaint, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas, mais en tout cas l'arbitre dégaine tout de suite le carton rouge, alors que Lorient mène 1-0 après 62 minutes. Je ne sais pas quelle analyse vous en faites.
Il avait pris un carton déjà. Il avait pris un carton
direct.
Non, il avait pris un carton jaune. C'est son deuxième carton jaune, donc il prend un rouge.
J'avais pas noté le premier, moi, effectivement.
Ouais. Je me demande s'il fait pas. C'est sur Angel Gomez, je crois. Il lui attrape la cheville.
Ouais,
on va confirmer.
Ouais. On l'a vu un peu sur les ralentis.
Oui, donc c'est logique. Deuxième carton jaune. Ça fait rouge. Forcément. Ce qu'on n'a pas noté non plus en ce début de deuxième période, tout à l'heure, j'étais en train de commenter et je n'avais pas vu, moi, que Rémi Cabella était rentré à la place de Jonas Martin. Ce qui change quand même un peu la donne du côté lillois. Et ça confirme aussi que Jonas Martin, il n'est pas forcément en état pour le moment, en tout cas, de jouer un match entier. Et c'est vrai que sa première période n'a pas été exceptionnelle. Rémi Cabella aux côtés de Ounas sur le côté droit, avec double changement à venir dans quelques instants pour les Lorientais. Mais ça change évidemment la donne pour les 27 minutes qu'il reste. Lorient mène, certes, mais va évoluer à 10 contre 11 et a déjà un premier coup franc dangereux à l'endroit de la faute sur Ounas. Un petit corner finalement à droite en regardant les buts de Mvogo sous les sifflets évidemment des supporters lorientais. C'est parti avec la tête de la porte, mais ça va être à retirer où il y a une faute de sifflet. On a pas mal parlé de l'arbitrage, pour tout vous dire, à la mi-temps avec les confrères, parce qu'il y avait un certain nombre de décisions. On était un peu étonnés. Là en tout cas, si c'est un deuxième carton jaune, là on est d'accord, hein, la règle est claire, ça y a pas de souci.
Si j'ai envie de demander à Manu, toi l'ancien défenseur, le deuxième jaune il est dur parce que il attrape la cheville en courant derrière Ounas. Il n'y a pas de geste, en fait, c'est vraiment en étant dans la jambe pour
faire ça. Il peut quand même l'éviter au lieu d'aller peut-être chatouiller sa cheville, il aurait pu peut-être le contourner un peu plus et aller récupérer le ballon. Mais bon, il a touché, on peut pas. Mais c'est vrai que c'est involontaire, mais c'est quand même quelque chose où les arbitres font aujourd'hui très attention.
Oui, puis c'est une action forcément potentiellement de but, donc c'est compliqué de ne pas la sanctionner quand même.
Et je crois que selon mes comptes, ça nous fait un 36e carton rouge cette saison en 9 journées. Hein. On conserve la tête du classement européen, interdiction de la lâcher, ce doit être les consignes de l'arbitrage. Non, même si là, effectivement, quand c'est deux jaunes, il n'y a évidemment pas grand-chose à...
Il faut dire aussi que la semaine dernière, je crois que la commission de discipline a retiré 2 cartons rouges à des joueurs, un de Reims à Loco, et l'autre, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu as Simon
Alors non, tu me prends par surprise, mon cher Manu. Je savais que
Loco, tu te rappelles, on était au match qu'on avait dit que c'était un scandale.
Il y a encore une faute là
sur Reims Monaco.
Reims Monaco, effectivement.
Et encore Enzo Lefebvre qui est au sol. Ça se tend un petit peu cette rencontre parce que là c'est Diakité qui en plein vol va bousculer Enzo Lefebvre. Là c'est minimum jaune parce que forcément c'est totalement de l'anti-jeu.
Il a retombé sur l'épaule.
Il pousse avec les mains surtout, c'est qu'il ne saute pas pour récupérer le ballon. Il met ses mains contre le golf et il le pousse carrément. Donc là ça peut aussi valoir peut-être un carton rouge.
Ouais, monsieur Ben Elhadj attend peut-être de voir aussi la gravité de la blessure, mais Enzo Lefebvre qui se plaignait à la mi-temps déjà du traitement qui lui était imposé. Et forcément, c'est un joueur dont on parle beaucoup et qui va être de plus en plus surveillé par les adversaires et qui va subir très certainement des fautes. Monsieur Ben Elhadj qui voit qu'Enzo Lefebvre sort. Alors c'est à l'épaule. On n'est pas au vélo quand vous tombez sur l'épaule. C'est pas forcément la clavicule au foot, mais bon.
Non.
Voilà, on va
mais c'est surtout le geste de
ça mérite un carton.
Ça mérite au moins un jaune puisqu'il le pousse avec les mains. Donc c'est ça qui est au lieu de sauter correctement pour aller chercher le ballon de la tête, non, il le pousse avec les mains.
Bon, et pour répondre à ta tentative de contre-pied, cher Manu Amoros, tout à l'heure, c'est le carton rouge qui avait été donné à Sofiane Boufal lors de la rencontre face à l'OGC Nice, qui a été retiré, comme celui, tu le rappelais, de locaux. Exactement. Toujours le score du coup au moustoir, mon cher Pierre-Yves.
Eh bien toujours 1-0 pour les Lorientais après 67 minutes, mais des Lorientais qui évoluent à 10 contre 11 avec cette expulsion il y a quelques instants et deux changements à venir. Il a attendu un peu Régis Lebris pour les faire vu que c'était au moment du carton rouge. Finalement il va bien les maintenir dans quelques instants. 67 minutes donc 1-0 pour Lorient.
Allez, micro ouvert pour toi Pierre-Yves hein, si tu interviens évidemment sans sommation s'il se passe quelque chose sur la pelouse du moustoir entre Lorient et Lille. Mais vous le savez, dans l'Intégrasport et sur RMC, on s'intéresse à tous les championnats, à tous les grands événements, tous les grands matchs. Et le grand match en Europe cet après-midi, c'est le derby de Manchester entre United et City. Ce sera commenté sur l'antenne par Arnaud Valadon qui nous a fait le plaisir de descendre en studio. Salut Arnaud.
Salut Simon, salut Manu, salut à tous.
Je le disais, après le derby du nord de Londres remporté par Arsenal hier face à Tottenham 3-1, le derby de Manchester a priori sur le papier un peu plus déséquilibré, quoique ça va un peu mieux à United ces derniers temps.
À ton avis, qui récemment a gagné le plus de matchs à l'Etihad Stadium entre City et United?
Ah bah si tu me poses la question, je vais répondre United alors.
Et oui, 3 victoires sur les 4 derniers matchs à l'Etihad. Alors même si la saison dernière, le dernier match à l'Etihad le 6 mars 2022 était une victoire de City 4-1, United adore jouer le poil à gratter et aller gagner chez son voisin notamment. Alors, il y a eu de la Premier League et également de la Coupe de la Ligue, mais voilà, faut se méfier pour les Citizens qui sont deuxième du championnat, qui quoi qu'il arrive, même s'ils l'emportent, ils resteront derrière Arsenal qui est assuré d'être premier à l'issue de cette 9e journée. Et United, ils sont 6e, les hommes d'Eric Ten Hag. Ils ont un match en retard, vous savez, avec tous ces matchs reportés à cause du décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Mais surtout, United, ils arrivent fort, puisqu'ils sont sur 4 victoires de suite en Premier League. Ils ont battu Arsenal, ils ont battu Liverpool notamment. On se souvient de ses débuts compliqués, avec ses 2 défaites d'entrée contre Brighton et contre Brentford. Donc c'est quand même une équipe de United qui arrive en pleine bourre hein, dans ce championnat de Premier League. Et on sent que ça prend la mayonnaise avec le technicien néerlandais.
Et avant de demander... ce que le flair de Manu Amoros lui indique avant cette rencontre. Petite stat pour confirmer ce que tu disais, Arnaud. Je lisais là chez nos copains du Daily Mail que c'est le match dans l'histoire de la Première Ligue qui a donné lieu au plus grand nombre de victoires à l'extérieur. Voilà, 21 victoires à l'extérieur lors de cette affiche. Manu, c'est vrai que ça va mieux à United, mais que quand tu joues City,
c'est déjà compliqué. C'est compliqué parce que ils ont quand même un jeu très précis et tous les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Moi je vois encore City gagner ce match-là.
Oui, d'autant que les compos auront leur importance. Il y a une info, évidemment, tous les supporters de United se posent la question avant chaque match. Arnaud, je te laisse poser la question et nous donner la réponse.
Je te la retourne, tu penses qu'il est titulaire ou pas, Cristiano Ronaldo?
Je sais qu'il ne l'est pas.
Eh oui, il est encore sur le banc, mais bon, United gagne avec Cristiano Ronaldo sur le banc. Il y avait un petit doute avec Rashford et Martial qui étaient de retour à l'entraînement. Eh bien, le meilleur buteur mancunien, Marcus Rashford, est bien aligné. seul. Harry Maguire est out, le capitaine. Ça donne pour Manchester United un 4-5-1 avec De Gea dans les buts, Lisandro Martinez, Varane en défense centrale, Diogo Dalot à droite, Tyrell Masiala qui a pris la place de Luke Shaw, donc c'est du classique. Milieu de terrain, deux récupérateurs, Christian Eriksen et Scott McTominay, Bruno Fernandes en numéro 10 et les attaquants, Jadon Sancho à gauche, Anthony le Brésilien à droite et Marcus Rashford devant. Du côté de Manchester City, John Stones, le défenseur, est absent et Emeric Laporte est toujours sur le chemin du retour après blessure importante, mais l'équipe a évidemment fière allure pour Pep Guardiola. Ederson dans les buts, Akanji, Nathan Aké en défense centrale, Cancelo à gauche, Kyle Walker à droite, un milieu à 3, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva et cette attaque, Phil Foden, Jack Grealish avec évidemment l'inévitable Erling Haaland, déjà 11 buts alors qu'on est seulement à la 9e journée, 11 buts en 7 matchs et encore Manu et Simon, il n'a pas joué les 7 matchs en intégralité.
La scoring machine, comme on dit en Angleterre, on n'a effectivement jamais vu ça, atteindre ce total de buts après aussi peu de matchs pour des débuts en Première Ligue. Manu, on vient d'entendre la composition, il est quand même bien confiant notre ami Guardiola parce qu'on a un milieu de terrain où le profil le plus défensif sur les 3 c'est Gundogan, ouais. Accompagné, on le disait, de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Ouais. Si c'est musclé en face, Manchester City pourrait avoir des problèmes quand même. Faut avoir le ballon avec des milieux comme ça.
On peut avoir des ballons, mais tu sais, on travaille aux entraînements et Guardiola, t'en fais pas, il travaille aux entraînements, même s'il met des attaquants à la perte du ballon, tout le monde se replace, tout le monde fait les efforts nécessaires pour pouvoir récupérer le ballon très très haut et après être solide dans le bloc défensif. Donc ça veut pas dire que avoir beaucoup d'attaquants t'empêche de défendre. Hein.
Oui, non, mais je disais pas avoir beaucoup d'attaquants, je disais jouer sans milieu défensif.
Et alors quand même ça peut faire.
Qu'est-ce que ça peut faire? T'es marrant, il joue pas contre une équipe de district quand même.
Ils savent qu'ils vont avoir le ballon, donc suffit que après il y a des compensations qui se font avec le central qui monte peut-être chercher celui qui est devant lui. Mmh. Donc ça suffit. Et à ce niveau-là, t'en fais pas que les connexions entre les doublettes qu'il va y avoir sur le terrain, ça va bien compenser.
Arnaud Valadon, on est bien d'accord, ça se joue à l'Etihad, c'est City qui reçoit.
Ça se joue à l'Etihad. Hein. Alors j'ai fait mes comptes, apparemment, on est sur le 128e match entre City et United, toute compétition confondue, avec un bilan en faveur de United, hein, 55 victoires contre 39 victoires pour les Citizens et 33 nuls. Et le meilleur buteur de l'histoire des City contre United, est-ce que tu as une petite idée? C'est pas très difficile.
Sergio Aguero?
Non, il est à 9 buts. C'est un joueur de United, des Red Devils. Est-ce que tu as une idée, Manu? Attaquant de United dans les années 2010.
Van Nistelrooy? Non, c'est
un Anglais, pure souche.
Ah, Wayne Rooney.
Wayne Rooney, évidemment, l'infernal. Wayne Rooney avec 11 réalisations dans ce derby de Manchester.
Et on se souvient de cette bicyclette fantastique pour la victoire 4 buts à 3 dans les arrêts de jeu. Arnaud Valadon, merci beaucoup. Tu seras au commentaire du derby de Manchester à partir de 15h, évidemment, sur RMC, où vous ne manquez rien des grandes affiches du football international. Avant de se quitter, quelques instants, détour par le moustoir, Pierre-Yves Leroux. Le temps, le score, Lorient-Lille.
Avec une rencontre qui a changé un petit peu, évidemment, puisque les Lorientais sont à 10 contre 11, mais ils mènent 1-0 et qu'on est à la 74e. Un certain nombre de changements qu'on aura l'occasion de détailler dans quelques minutes.
On te retrouve dans quelques instants pour suivre en direct la fin de cette seconde période entre Lille et Lorient, la 9e journée de Ligue 1 qui se poursuit et qui continuera à partir de 15h en multiplex avec François Pinet dans l'Intégral Sport. Vous ne bougez pas, on revient tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
14h32, vous êtes bien sur RMC, la suite de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 15h. À 15h, vous retrouverez François Pinet, Sébastien Piocel pour le multiplex Ligue 1. Vous en avez l'habitude, 4 rencontres qu'on va vous présenter dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que le Grand Prix du départ de Singapour, 17e manche du championnat du monde de Formule 1, a été retardé, initialement prévu à 14h. Les feux s'éteindront finalement peu après 15h05, le tour de formation. Vous retrouverez évidemment Jean-Luc Roy, Denis Chevrier, comme d'habitude, aux commentaires de cette course qui pourrait sacrer pour la deuxième année consécutive Max Verstappen, le pilote Red Bull, qui ne s'élancera pourtant que de la 8e place. C'est Charles Leclerc qui partira en pole position. Je vous rappelle que ce matin, grosse désillusion pour Fabio Quartararo, 17e seulement du Grand Prix de Thaïlande, du Grand Prix MotoGP, alors que Bagnaia, son concurrent au championnat du monde, a terminé 3e. Le pilote Ducati qui revient à 2 points seulement du pilote français Yamaha. Ça va être chaud à 3 Grands Prix de la fin. Rendez-vous en Australie pour tous ces pilotes. Dans un instant, je vous le disais, présentation du multiplex qui vous attend à 15h avec nos envoyés spéciaux. Mais avant ça, retour au moustoir. Lorient-Lille, Pierre-Yves Leroux, où en est-on ?
Eh bien, des Lillois qui s'agacent à l'image de Cabella, là, assis dans la surface de réparation après ce centre pour personne parce qu'il n'y a pas assez de solutions. Et lui, il sait que la montre tourne, 77e minute. Et même s'ils sont à 11 contre 10, les Lillois, eh bien, pour l'instant, ils n'y arrivent pas à revenir dans ce match où ils sont menés 1-0 depuis la 10e minute. Et ce but contre son camp de Diakité. Il y a un personnage qui les fait tourner en bourrique, c'est Ounas. Ounas qui sert en profondeur. Bamba et le but, là voilà, l'égalisation ! L'égalisation lilloise, c'est très bien joué de la part de Jonathan David qui a servi Bamba. Je pense que c'est lui qui la met au fond des filets. En tout cas, ça fait un partout. On s'en doutait un petit peu et ça vient de l'homme qui vraiment détient les rênes aujourd'hui, c'est Ounas. Même que ça soit offensivement ou défensivement, c'est vraiment lui qui fait la différence. Et but de Jonathan David, donc, qui permet à Lille de revenir un partout.
Manu, Pierre vient de souligner, on l'a dit depuis le début de la rencontre, hein, Ounas le détonateur. Hein.
Ouais, mais c'est pas normal parce que je pense que l'orienté mais ils jouent mal le coup parce que d'abord, comme on l'a dit, Ounas c'est celui l'homme dangereux de cette équipe lilloise et il y a personne qui va sur lui en permanence et on lui laisse contrôler le ballon, on lui laisse faire des passes, donc ça devait arriver hein, oui. Et ça devait arriver par cet homme là quoi.
C'est sûr, exactement, c'est le résumé de cette partie. Ah ouais, ça fait des minutes et des minutes qu'on le dit et qu'on se doute que c'est lui qui va faire la différence. Pourtant, il fait un boulot incroyable parce qu'il y a quelques minutes, c'est lui qui est revenu à 25 mètres de ses buts sur un contre l'orienté pour arrêter justement cette offensive. Et attention, parce que c'est peut-être pas terminé. Le voilà encore en possession du ballon pour un centre deuxième poteau. Il a vu que ça revenait de la tête, mais ça sera trop court. Et on en reste à 1 partout. Attention, ça va être dur hein, pour les Lorientais ces 12 dernières minutes. La partie a complètement changé de physionomie.
C'est ce que j'allais dire, ça va être compliqué. Micro ouvert pour toi, Pierre-Yves. Tu nous fais signe évidemment dès qu'il se passe quelque chose sur la pelouse du moustoir. Il reste quasiment 12-13 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. On va aller voir nos envoyés spéciaux sur les différents stades des 4 rencontres qui vous attendent en multiplex à partir de 15h autour de François Pinet en compagnie de Sébastien Piocel, dont ce Ajaccio-Clermont. Ce sera avec Jean-Philippe Scapula au commentaire. Salut Jean-Philippe.
Bonjour à tous, salut à tous et bonjour.
Alors Jean-Philippe, quelles sont les infos à mettre en avant avant cette rencontre? Que faut-il attendre sur la pelouse d'une équipe d'Ajaccio, on le sait, en grande difficulté depuis le début de cette saison?
Ah ben ouais, ben c'est l'info, c'est un petit peu l'info principale d'aujourd'hui. C'est l'enjeu pour Ajaccio quand ce matin l'excellent quotidien régional qui titrait ce matin enchaîné. C'est exactement ça après la première victoire de la saison il y a 15 jours à Brest. Les Ajacciens vont devoir remporter leur première victoire à domicile pour quitter cette place de lanterne rouge à laquelle ils sont scotchés depuis le début de la saison et pour se mêler à cette lutte pour le maintien après un départ comptable catastrophique. Mais ça va mieux moralement surtout après cette victoire à Brest. Malheureusement aujourd'hui pour les Corses, il faudra faire sans deux hommes très très importants. C'est le gardien Benjamin Leroy, on se souvient de ce choc terrible subi à Brest il y a 15 jours. Il n'est pas tout à fait remis. C'est François-Joseph Solacaro, son suppléant, qui va le remplacer aujourd'hui pour son premier match en Ligue 1. Et il faudra faire également sans Romain Amouma, touché à Brest, qui n'est pas suffisamment remis pour participer à ce match importantissime contre des Clermontois qui eux vont vouloir s'inscrire désormais dans la première partie du tableau. C'est un petit peu l'enjeu pour les Clermontois qui se portent beaucoup mieux au niveau comptable que les Ajacciens avec 10 points. Un très très bon début de saison des Clermontois. C'est un match très difficile ici pour les Corses, mais c'est déjà un match bascule pour la saison de la CA où Tim Izzol, qui se remplit petit à petit, attend une victoire.
Jean-Philippe Scapula au commentaire d'Ajaccio Clermont à partir de 15h. À tout à l'heure. Auxerre-Brest, ce sera en compagnie de Fred Joly au commentaire. Salut Fred.
Salut tout le monde.
Fred, duel de mal classé à la Baie des Champs aujourd'hui.
Eh oui, comme tu dis, les mal classés, une équipe brestoise qui reste sur une série de 3 défaites et 1 nul. Les Auxerrois qui restent sur 4 défaites consécutives. Ça va pas très bien pour deux équipes en manque de confiance, en manque de points, en manque de repères, avec une ambiance peut-être un peu particulière, même si Jean-Marc Furlan ne veut pas en entendre parler. Les retrouvailles entre Jean-Marc Furlan et Brest, qu'il a fait monter en 2019 après y avoir passé trois saisons. Il les a fait remonter en Ligue 1, rencontre un peu particulière, mais en tous les cas, ce soir, du côté de Serre, on a surtout envie de renouer avec la victoire. Il y aura un ancien Brestois aligné du côté d'Auxerre, c'est Bernard. Faut noter quand même que Coef, Autrette, Léon, Charbonnier, même s'il n'a pas connu l'ère Furlan, viennent de Brest. Donc une rencontre évidemment très importante, que ce soit pour des Brestois très mal classés, actuels 19e, et des Auxerrois guère mieux 16e.
Fred Joly au commentaire de ce Auxerre-Brest à vivre en multiplex sur RMC à partir de 15h. À tout à l'heure. Trois Reims également dans le multiplex dans l'Intégral Sport. Ce sera avec le Jam, Valentin Jamin. Salut.
Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous.
Que faut-il attendre de cette rencontre des Troyens qui réalisent un début de saison un petit peu au-dessus des espérances, des pronostics de nombreux observateurs face à une équipe de Montpellier toujours aussi irrégulière.
De Reims aussi irrégulière. Il n'y a aucun problème. Effectivement, pour Troyes, on est agréablement surpris ici par le début de saison des Troyens qui restent sur 3 succès en 5 matchs. Une belle victoire à Clermont avant la trêve. Une confiance retrouvée, une ambiance plutôt sereine au sein du club, alors que Bruno Herles, l'entraîneur, avait été un petit peu chahuté par les supporters. Donc effectivement, Troyes veut s'imposer, d'autant plus que c'est un derby ici. Le match face à Reims, il est très très important dans l'esprit du club, dans l'esprit des supporters. Il y a de la chaleur, on sent que l'ambiance va monter peu à peu, et effectivement les Troyens veulent poursuivre sur leur belle série face à des Rémois irréguliers qui n'ont gagné qu'une seule fois cette saison. Et je vous entendais en parler tout à l'heure, trop de cartons rouges aussi du côté de Reims. Il y a eu 8 matchs disputés en Ligue 1 et Reims a terminé 5 de ces matchs en infériorité numérique. C'est beaucoup trop pour espérer prendre des points, et donc Reims pour l'instant est dans une zone rouge inconfortable. Donc derby sous haute tension, des enjeux à tous les étages. Une jolie histoire, c'est celle du gardien de Reims qui va jouer, Evan Diouf, habituel numéro 2, qui avait été numéro 1 pour la première fois cette saison face à Monaco lors de la dernière journée. Il est de nouveau numéro 1 dans son club formateur, puisqu'il est formé à Troyes. Il a quitté le club en 2019.
À Troyes, Reims, 9e journée de Ligue 1, rencontre à suivre en multiplex avec Valentin Jamin au commentaire à partir de 15h. À tout à l'heure, Valentin. Montpellier ne défiera pas Troyes parce que Montpellier se déplace sur la pelouse de Toulouse. Toulouse-Montpellier, c'est la 4e rencontre de ce multiplex à vivre à partir de 15h. Et il passe en dernier, c'est normal, c'est Templier. Wilfried Templier, salut Wilfried.
Salut Simon. Wilfried. Salut Manu, bonjour à toutes et à tous.
Alors Wilfried, les Toulousains vont-ils l'emporter à domicile face à des Montpelliérains, je le disais à l'instant, toujours aussi irréguliers?
Oui, c'est vrai, irrégulier, mais les Montpelliérains pourraient accrocher un bon wagon. Ils sont 9e avec 12 points. S'ils venaient s'imposer ici à Toulouse, ils pourraient être dans le premier tiers du championnat. Donc, ils ont une grosse occasion, là, les Montpelliérains ici à Toulouse. Toulouse qui, notamment à domicile, doit marquer un peu plus. Hein, 4 matchs, 4 buts seulement en 4 matchs. Alors, ils ont réussi à battre Reims lors de la dernière rencontre ici à domicile, mais c'était un peu tiré par les cheveux, un peu difficile. C'est le promu toulousain. Écoute, ils vont encore être soutenus. Par contre, il y a un énorme engouement à Toulouse. On a plus que triplé le nombre d'abonnés et on va avoir un 5e match à plus de 20 000 personnes au stadium pour un dimanche après-midi. Faut quand même le souligner. Depuis l'année dernière, la remontée, le titre, il se passe vraiment quelque chose ici au stadium. Il n'y a pas que le rugby ici à Toulouse, on aime à le dire chez les supporters du TFC, mais voilà, il faut être efficace, il faut gagner aujourd'hui parce que Toulouse a, avant la trêve de la Coupe du Monde, 3 matchs à domicile très importants. Montpellier, Angers et Strasbourg, ils se déplaceront à Lyon, à Lens, ce sera plus difficile, mais à domicile, peut-être que le promu peut poser les bases cette année pour un éventuel maintien en fin de saison.
Et lorsque Wilfried Templier vous dit qu'il n'y a pas que le rugby dans la Ville Rose, c'est bien que l'engouement est revenu au stadium. Merci beaucoup Wilfried, on te retrouve aux commentaires de ce Toulouse-Montpellier dans le multiplex qui commence dans l'Intégral Sport à partir de 15h, 9e journée de Ligue 1. Tiens, Julian Boumnov est descendu en studio. J'entends les pièces cliquetées au fond de sa poche. C'est l'heure de parier sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Julien, bonjour.
Salut Simon, salut tout le monde.
On va parier donc sur ce Toulouse-Montpellier. Qu'est-ce que tu nous as apporté dans ta besace?
Alors, la victoire de Toulouse est cotée à 2, le nul à 3,75 et la victoire de Montpellier à 3,55. Toulouse, à part face au Paris Saint-Germain, n'a pas perdu au Stadium cette année. Et Montpellier, à part la claque qu'ils avaient mis à Brest, perd énormément ses derniers déplacements. 7 défaites sur les 8 derniers déplacements. Donc mon pronostic, moi, c'est Toulouse ne perd pas et les deux équipes qui marquent à 1,98. Sinon, je peux peut-être vous proposer le 2-1, 3-1 ou 4-1.
Goal pour Lorient. Le Brice Théo de son prénom qui a 10 contre 11 va peut-être donner la victoire aux Lorientais alors qu'on entrait dans les dernières minutes. Tout le monde est en train de se projeter du côté du poteau de corner où le Brice, le neveu de l'entraîneur,
Lorient vient de très joliment se débarrasser de son vis-à-vis côté gauche et de mettre le ballon entre les pieds, entre les jambes de Lucas Chevalier devant les supporters, devant la tribune là. Vraiment, c'était quasiment impossible à imaginer il y a quelques minutes, tant les Lorientais étaient dominés à 10 contre 11. Et là, il y a un garçon qui a compris, c'est Talbi qui fait signe. Attention, attention, maintenant on se replace, il faut tenir ce score parce que ça va être encore compliqué dans les petites minutes qui restent.
Manu, il est presque miraculeux ce but au vu de la physionomie de cette fin de rencontre. Superbe enchaînement de Le Bris, exceptionnel.
Ouais, mais un superbe contrôle, puis l'accélération, Simon, quelle accélération. Mais on voit Talbi aussi qui malheureusement ne vient pas couper. Pourquoi il s'arrête? Il ne va pas couper quand on voit que son défenseur, normalement un central, il voit que son défenseur est en difficulté, il doit venir sur ce côté-là. Et là, malheureusement, il n'a pas anticipé. Et tant mieux pour Lorient. Hein.
Et le miracle lorienté qui se poursuit. On revient dans un instant pour suivre la fin de la rencontre avec toi, Pierre-Yves Leroux, Lorient qui mène 2-1. Julien, tu as un immense sourire sur le visage. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Tu étais en train de nous donner. Rappelle-nous les codes que tu nous proposais.
Exactement. C'était le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour Toulouse à 4-5. Je peux aussi vous proposer le plus 2,5 buts, le plus 2,5 buts à 1,64, peut-être à combiner avec autre chose. Et au niveau des buteurs, je peux aussi peut-être vous proposer Tish Dalinga à 2,60, Branko Van Den Boomen à 3,95, ou du côté Montpellier, Eli Wahi à 3,35 ou TJ Savani à 4,40.
Manu, il y a quelque chose qui te plaît dans les suggestions de Julien?
Moi je verrais un nul dans le match et un but de Dalinga. Ça fait une cote à 9 à peu près.
Ah, il avait bossé sa cote, ouais. Manu. Ouais. Très joueur sur ce Toulouse-Montpellier, l'une des 4 rencontres à suivre en multiplex dans l'Intégral Sport à partir de 15h. Vous pouvez retrouver les cotes données par Julien. Je te remercie, Julien, d'être
3,35, la cote de Toulouse vainqueur et Tish Dalinga buteur.
Eh ben voilà, 3,35, toutes ces cotes à retrouver sur le site de rmcsport.fr et sur celui de Winamax, notre partenaire. Merci Julien.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ajaccio Clermont, Auxerre, Brest, Toulouse, Montpellier et Troyes, Reims. C'est la suite de la 9e journée de Ligue 1. 4 rencontres à suivre en multiplex dans l'Intégral Sport qui se poursuit à partir de 15h autour de François Pinet en compagnie de Sébastien Piocel, notre consultant. Pour quelques minutes encore, nous, on est avec Manu Amoros et Pierre-Yves Leroux au moustoir. Lorient qui a repris un avantage, on le disait, quasiment inespéré au vu de la physionomie de la seconde période.
Ah oui, c'est incroyable. Et là, on voit Paolo Fonseca s'agacer parce que c'est un nouveau ballon perdu, ballon important, ballon capital dans ces dernières minutes, la dernière minute du temps réglementaire. À l'instant, des Lorientais qui sont repassés devant 2-1, alors qu'on le rappelle, ils sont à 10 contre 11 depuis une demi-heure maintenant, et on fait les changements du côté de Régis Lebris. Il y en a eu un paquet, hein. Cabella avait remplacé Martin à la pause. Derrière, du côté de Lille, on a fait rentrer André Gomez, Zedatka également, et puis Bayo à la place de André. Et puis du côté Lorientais, le dernier changement dans un instant, ça sera l'entrée en jeu de Matsima à la passe de Enzo Lefebvre. Vous allez entendre l'ovation évidemment pour Enzo Lefebvre.
On profite de l'ambiance du moustoir, on l'entend, on doit se régaler, on ne doit pas être déçu d'avoir bravé la pluie et les conditions très, très bretonnes.
Oui, petit crachin.
Mais Lorient, troisième avant cette rencontre, tu le rappelais, hein, derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, et qui va donc conforter sa place sur le podium de la Ligue 1. Après 9 journées, Manu, on ne peut plus parler de surprise, hein, ou de début de saison heureux quand même. Hein, il se passe quelque chose.
ils ont marqué contre Nantes, ils marquent à la 90e, là. Il marque un but aussi pratiquement dans les arrêts de jeu. Voilà, c'est une équipe de Lorient qui ne lâche rien.
À 10 contre 11, on le rappelle, hein, aujourd'hui encore.
Oui, mais ils ont un moral d'acier, et même s'ils subissent en permanence, ils jouent les contres à fond. Et Le Bris a fait un exploit, parce que sur le contrôle, il a été bon, puis l'enchaînement.
Ah, l'enchaînement, il est exceptionnel.
Ah oui, et la vitesse qu'il y a eu,
c'est aussi
incroyable.
Le coaching, hein, parce que il venait de rentrer, hein, il y avait très peu de temps de jeu, il avait remplacé c'est
à Diarra. Ben, c'est un de ses premiers ballons.
Ouais, Pierre-Yves, ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire qu'il a mis quand même un attaquant, parce que Le Bris, c'est un joueur de couloir et qui joue quand même assez haut. Ouais. Donc, il a pensé peut-être qu'en faisant rentrer Le Bris, il pouvait avoir une situation et pouvoir marquer un but.
Il aurait pu tout mettre sur la défense, et c'est pas le cas, effectivement. Ben non. Mais il aime le jeu, hein, de toute façon. Donc.
Ah ben, c'est bien pour ça que les entraîneurs ou les joueurs, dès qu'ils tentent quelque chose, il faut être opportuniste, hein, il faut ne pas avoir peur de changer éventuellement, parce que comme tu dis, Pierre-Yves, il aurait pu mettre un défenseur et rester assis derrière et plus bouger, et là ils auraient peut-être perdu le match, alors que lui il a préféré mettre un attaquant et pour aller gagner le match.
Pierre-Yves, il sort d'où ce petit Le Bris là, pour ceux qui suivent pas Lorient chaque semaine?
C'est tout simplement le neveu, hein, de Régis Le Bris. Qui avait joué, vous en souvenez peut-être, pour les plus anciens, en fait, ils sont arrivés quasiment en même temps, Régis et puis son frère Benoît, du côté du Stade Rennais. Et puis donc, Benoît a un fils, Théo Le Bris, qui sort du centre de formation, et effectivement, qui est un tout jeune joueur. Attention aux Lille, voilà, qui ont un corner, mais ça ne sera pas pour ce coup-là encore. Et effectivement, eh bien, il apparaît maintenant assez régulièrement dans ce groupe lorientais. C'est pas toujours facile, hein, pour un oncle d'avoir son neveu dans un collectif, mais là il a su qu'il pouvait compter sur lui, et c'est trois points qu'ils vont aller chercher là, très certainement, de façon assez incroyable. Il reste 1 minute 20 à négocier avec Lorient assez incroyable, qui a déjà battu des records, hein. Ils n'ont jamais pris autant de points sur un début de championnat, et on le rappelle, le meilleur classement pour Lorient, c'était en 2010, il avait terminé 7e avec Christian Gourcuff. Alors pourquoi pas essayer de faire encore mieux. Attention aux Lillois à l'entrée de la surface de réparation, c'est un peu du roi football là, côté lorientais, pour tenir ce score dans ces dernières secondes, avec Gomez qui écarte sur le côté gauche, le centre, attention à ce ballon dans la surface de réparation, avec Cabella qui va frapper, ça va être tranquille pour Mbogo, je pense, voilà, c'est dans les bras sans problème du portier lorientais, sous les acclamations du public du Moustoir. Les 15 000 supporters évidemment ravis de ce qui se passe ici du côté du Morbihan, avec 28 secondes encore avant la fin du temps additionnel, et Lorient qui va enchaîner une nouvelle fois. Et puis du côté lillois, une petite stat, on l'a pas évoqué, pas un seul clean sheet depuis le début de la saison, ils en ont encore pris deux aujourd'hui, les Lillois, ça commence à faire quand même un peu beaucoup. Il va falloir régler des choses en défense.
C'est pas la spécialité des équipes entraînées par Fonseca d'habitude, le clean sheet, mais si la victoire de Lorient se confirme, ce serait la 5e consécutive en Ligue 1, messieurs, ça ferait 22 points les Lorientais, qui ne sont qu'à 3 points du Paris Saint-Germain avec le même nombre de matchs, 1 point derrière l'OM, deuxième du championnat, 5 victoires consécutives. Il n'y a que Paris, hein, qui peut afficher une série aussi parfaite en championnat depuis 5 journées, voilà.
C'est fini, c'est terminé, grande joie du côté du banc lorientais, avec Terem Moffi qui saute dans les bras de Régis Le Bris. Cette victoire lorientaise, avec un but de Diakité contre son camp à la 10e minute, égalisation de David à la 77e, à un moment où les Lorientais sont à 10 contre 11 après l'expulsion de Ouattara, et c'est Théo Le Bris qui réussit à donner l'avantage à la 87e aux Lorientais, qui prennent à nouveau 3 points ici au Moustoir.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, en direct du Moustoir.
Salut Manu.
Nous a commenté la poursuite du miracle lorienté. Lorient, solide 3e de Ligue 1 après 9 journées, 22 points à 3 points seulement du leader parisien, 1 point seulement derrière l'OM, 2e. Merci beaucoup Pierre-Yves, à très vite sur RMC dans un instant, la suite de l'Intégral Sport et de cette 9e journée de Ligue 1, 4 rencontres à suivre en multiplex avec François Pinet et Sébastien Piocel. Nos deux amis sont en train de s'installer en studio, de prendre leur dernière note. Je leur donne la main dans un instant. Avant ça, Manu, petit débrief. On a eu un excellent début de match des Lorientais.
Ouais.
Une grosse domination lilloise. Et puis, après cette égalisation méritée, j'ai envie de dire, Lorient qui a su trouver les ressources pour s'imposer, alors qu'on voyait plutôt Lille emporter la bourriche. Hein.
Oui, c'est vrai que les Lillois ont très bien joué en deuxième mi-temps, peut-être pas assez d'occasions peut-être franches, mais avec des joueurs qu'on a
pas vu beaucoup quand même entre David et Bamba, qu'on n'a pas vu quand même beaucoup, et surtout on a joué énormément sur le côté avec Ounas, donc c'est un peu insuffisant parce que c'est un collectif et le collectif il doit jouer davantage avec ses forces, et Bamba je pense que est un très bon joueur, mais aujourd'hui il a été inexistant. Et puis les Lorient, c'est la victoire collective d'un groupe soudé, d'un groupe qui va aller loin.
Il a peut-être manqué un Manu Amoros du côté Lorienté pour freiner un petit peu les débordements de l'intenable Adam Ounas, aujourd'hui un des meilleurs Lillois sur la pelouse. Merci beaucoup Manu.
Merci Simon.
Et à très vite sur RMC.
Bonne journée, au revoir.
Merci et bon dimanche de sport à toi. On sait que tu seras à l'écoute de RMC devant ta télé. Le temps pour moi de donner la main à un homme qui a apprécié l'enchaînement de
évidemment
du petit Lebris. Ça t'a rappelé quelqu'un, François
Pinet? On dirait du Pinet sur un terrain. Toi qui m'as vu jouer, Simon,
et qui t'ai donné tant de ballons de but.
Eh oui, c'est vrai.
Je te trouve meilleur à la réception de mes passes décisives que quand il faut enchaîner comme le petit Lebris.
Toi, tu es un petit peu le Messi, effectivement, sur un terrain. Un Messi qui aurait un peu mangé un peu trop ces derniers temps.
Un peu trop McDonald's, ouais, effectivement.
Merci Simon, en tout cas. On espère se régaler comme tu t'es régalé avec ce match des Lorientais. Ajaccio, Clermont, Auxerre, Brest, Toulouse, Montpellier, Troyes-Rhin. Ça, c'est pour la 9e journée de Ligue 1 qui va se poursuivre avec, bien sûr, Sébastien Piocel. Il y aura également le derby de Manchester City face à Manchester United. Commenté, évidemment, pour RMC, ce match de Première Ligue. Et puis, vous ne raterez rien du Grand Prix de Singapour. Vous savez que le départ a été retardé. Coup d'envoi à 15h05 de ce Grand Prix de Formule 1 avec Jean-Luc Roy au commentaire, bien évidemment. Tout ça à suivre dans un tout petit instant sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.